إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم مع درس الفقه. نعم، ونحن اليوم بإذن الله سبحانه عز وجل نصوم جهدي مخدي ست ذو الحجة 1427، c'est-à-dire 27 décembre 2006. Ici, Bi'idna Azzawajal, le 16e cours. C'est le 16e cours en jurisprudence. Taïb. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on parle de l'adhan. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on parle de l'adhan. C'est une langue, c'est l'i'lam. C'est l'i'lam. Langue, l'adhan, ça veut dire l'i'lam. Parce qu'avec l'adhan, quand on fait l'adhan, on a plusieurs buts, bien sûr. Mais le but le plus principal, c'est que les gens sachent que c'est le moment de la salat. C'est les gens sachent que c'est le moment de la salat. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est shar'an. Qu'est-ce que ça veut dire l'adhan shar'an? Shar'an, huwa l'i'lam bi waqt salat bi alfaz makhsoosa. Afin que ça soit un adhan, il faut que ça soit avec des termes spéciaux, des termes du adhan. Quelqu'un qui, lorsque la prière arrive, par exemple, il se lève, il va dire c'est l'heure, venez faire la prière. Ça, ce n'est pas un adhan. Pour que ce soit un adhan, shar'i, il faut qu'il dise les mots qu'il y a dans le adhan, sans ajouter un mot, sans retrancher un mot. C'est pour ça que c'est l'une des grandes innovations que de dire, par exemple, dans l'adhan, ajouter, par exemple, وعلي ولي الله. Les chiites, quand ils font l'adhan, après avoir dit أشهد أن محمد رسول الله, ils disent وأشهد أن علي ولي الله. Ça, c'est une innovation, c'est une grande bid'a même. C'est une grande bid'a. Pourquoi? Parce que le adhan, c'est comme la prière. Dans la prière, tu ne peux rien ajouter ni retrancher. Dans le adhan, tu n'as pas le droit d'ajouter une lettre ni de retrancher. Alors les chiites, tellement ils adorent Ali, comme c'est pour certains c'est leur dieu, c'est pour ça qu'il a brûlé pas mal de gens en son époque, qui ont dit que tu es un dieu, il les a brûlés, par malheur quand il les a brûlés, ils ont dit c'est maintenant qu'on a plus de conviction que tu es le dieu, car il n'y a que le dieu qui brûle, car il y a hadith qui dit la yu'adhibu bin-nar illa rabbun-nar. Donc les chiites ajoutent waliullah, anna Ali waliullah, et ça c'est une bid'a, inshallah ta'ala. On n'a pas le moindre doute que c'est une bid'a, inshallah ta'ala. Car nous aussi on va dire wa ashhadu anna Abu Bakr waliullah. Et Abu Bakr était mieux que Ali, tout le monde le sait. Pour être al-sunnah ou jama'a, il faut que tu avances Abu Bakr comme ça, par classement. Si on te dit quel est la meilleure personne sur la terre, tu dis après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Abu Bakr, Umma Omar, Umma Uthman, ensuite Ali radiallahu ta'ala en quatrième position. Si tu dis le premier c'est Ali, là tu n'es plus un sunnah ou jama'a, tu es devenu un chi'i ou l'ayadu billah, tu es devenu un chi'i ou l'ayadu billah. Ensuite le adhan, donc il faut des termes spéciaux pour le adhan, pour que ça soit le adhan. Ces termes inshallah ta'ala on va les dire, on va dire quels sont ces termes bi'idna subhanahu wa ta'ala. D'abord on va commencer par quel est le hikma du adhan. Quel est le hikma du adhan? Il y a beaucoup de hikma, beaucoup de sagesse qui vont être citées ici. parmi les plus connus, les plus connus, c'est que premièrement, il permet de savoir que l'heure de la salat est rentrée. S'il n'y avait pas de adhan, chacun serait alors obligé, chacun de nous, de chercher est-ce que c'est l'heure de la salat. Chacun de nous serait obligé de mettre quelque chose comme ça, de aller sur la terre, de planter quelque chose pour voir l'ombre. L'ombre, est-ce que l'ombre est égale ou bien il n'y a pas d'ombre? C'est le zénith ou bien elle est égale, c'est le dhuhr ou bien la doublée, c'est le asr. Et comme on l'a expliqué dans le hadith. Donc, alhamdoulilah, maintenant quand on entend le adhan, oh, alhamdoulilah, il y a des gens yani, qui font cela pour nous. Ils nous apprennent que c'est l'heure de la salat. Aussi, le adhan, aussi, yani, parmi les raisons, parmi ces raisons yani, qu'on fait le adhan, c'est que ça montre si le pays où on est un pays de kufr ou pays d'islam. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la guerre sainte, des fois il attaquait par exemple une ville, il attendait caché avec les compagnons radiallahu ta'ala anhum, ils attendaient caché, est-ce que cette ville là ou de ce pays, fait l'adhan, on va entendre le adhan ou on n'entend pas. Si on n'entend pas le adhan, ça veut dire que c'est un pays de kufr. Naam. Où il y a le adhan, c'est un pays d'islam. Donc c'est la preuve de l'islam et du kofre. C'est pour ça que si jamais des musulmans, pas des kofars, disent dans une ville, par exemple, ils disent nous on fait pas le adhan, on fait seulement la prière sans le adhan. Cela, il faut quoi? Il faut un yuqatalu, il faut les tuer. Non, il faut leur faire la guerre jusqu'à ce qu'ils fassent le adhan ou bien ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ont yani, ils ont laissé quelque chose yani, qui montre que c'est l'islam, qui montre qu'il y a l'islam et qui montre qu'on est musulman. Donc celui qui ne fait pas le adhan, bien sûr, c'est très grave. On va dire pourquoi yani, son chokm aussi. Aussi, le adhan, yani, pourquoi on fait aussi le adhan, il a beaucoup, beaucoup d'avantages. Il a beaucoup d'avantages. On va les citer maintenant dans un hadith où vous allez voir, yani, il y a des choses étonnantes quand on fait ce adhan. Il y a des choses étonnantes. On va les citer, inshallah ta'ala, après un peu de temps. Je me rappelle une fois il y avait un savant, ensuite avec ce savant il y avait une personne qui était assise avec ce savant, ensuite une personne est rentrée, elle a demandé au savant, elle lui a dit j'ai vu dans le songe que je faisais le adhan ou bien j'ai entendu le adhan, yani, moi j'ai oublié, c'est pas la personne qui a dit comme ça, la personne elle a dit ou bien j'ai vu ou bien j'ai entendu le adhan. Elle a dit, ou bien j'ai entendu, ou bien j'ai fait le adhan. Le savant lui a dit, Inch'Allah ta'ala, tu vas partir au hajj. Inch'Allah ta'ala, tu vas partir au hajj. Ensuite, une deuxième personne est rentrée. Elle a dit, est-ce que je peux poser une question? Il lui a dit, Tfadal. Il lui a dit, j'ai vu que je faisais le adhan, ou bien j'ai entendu le adhan. Là aussi, j'ai oublié. Le adam lui a dit, le savant lui a dit, écoute, Inch'Allah ta'ala va faire le repentir. Il faut Inch'Allah ta'ala que tu reviennes vers le vrai chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu fasses le repentir et astaghfirullah wa atubu ilayh. Ensuite il est parti. Quand il est parti, la personne qui était assise avec le alim s'est étonnée. Elle a dit, aujourd'hui j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire. Comment se fait-il que deux personnes t'aient demandé la même question et tu as répondu différemment? Au premier, tu as dit, tu vas partir au hajj. Alors tu as dit il faut faire le repentir, etc. Il lui a dit naam. Il lui a dit quand la première personne est rentrée et m'a posé la question, elle m'a dit qu'elle a entendu l'adhan ou bien qu'elle a fait l'adhan, il a dit j'ai médité, je l'ai vu de haut en bas, ça m'a paru une personne pieuse, yani, d'après l'habit, d'après la façon de parler, d'après le comportement. Alors je me suis rappelé que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran wa adhin fil nasi bil hajj يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. إذن je me suis rappelé que Allah a dit وأذن في الناس بالحج, c'est le adhan du hajj, yani, apprend aux gens qu'il y a le hajj. Et quand j'ai vu la deuxième personne comme ça avec des vêtements sales, lui-même il était sale, un visage noir, etc., j'ai su que yani, je me suis rappelé que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Il a dit ensuite, quand Yusuf alayhi salam a mis la chose qu'il a voulu faire croire qu'on l'a volé, il l'a mis dans un sac, qu'est-ce qu'il a dit? Ensuite, quelqu'un a dit أيتها العير أذن أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Vous êtes des voleurs, il y a un voleur parmi vous. Il a dit donc le mot adhan. C'est possible quand quelqu'un entende le adhan, c'est possible que ça soit quelque chose de bien, comme c'est possible qu'il faut qu'il fasse, inshallah ta'ala, le repentir si c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Fadlo, les mérites du adhan, il y a beaucoup de mérites dans le adhan. Il y a beaucoup de mérites. Par exemple, Narawa Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc hadith Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, c'est un hadith dans le Bukhari muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idha nudiya li salah, si on appelle à la salah, c'est-à-dire si on fait le adhan, qu'est-ce qui se passe? Il a dit adbara shaytan, le shaytan s'enfuit. Donc voilà l'une des mérites de adhan, c'est que quand on fait le adhan, le shaytan s'enfuit, il ne peut pas entendre le adhan, il ne peut pas. Donc il أدبر الشيطان وله دورات et en même temps il a des pets, il a des pets, ça veut dire qu'il fait sortir des gaz. Pourquoi? Parce que dans un autre hadith il est dit il ne veut pas l'entendre. Alors comme il ne veut pas l'entendre, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a aucun moyen que de faire des pets comme ça fort pour que il n'entende pas, pour que lui il n'entende pas, tellement c'est difficile qu'il entende. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Il ne veut pas l'entendre, bien sûr. Ensuite il a dit حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل. Quand le mu'adhdhin termine, il est là le shaitan. Et il a dit حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. Ensuite il a dit quand c'est l'iqama, il va faire la même chose, il va s'enfuir avec des pets, etc. Dans un autre hadith. Ensuite il a dit quand la iqama est terminée, les gens vont dire Allahu Akbar, il est là, et c'est le moment le plus opportun pour lui, le plus propice, c'est d'essayer de ne pas te faire d'essayer qu'il fasse en sorte que tu ne fasses pas ou bien la prière ou bien à la rigueur que tu ne la fasses pas bien, pour que tu ne traînes du hajj que la moitié ou bien le quart ou bien le dixième. Il commence à faire le souhait. On avait dit que ce shaitan spécialement s'appelait Khinzab, qu'on avait montré que pour l'éloigner de nous, on devait cracher trois fois à gauche et dire Audoubla Mishtaradim, on se cracher trois fois à gauche, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours d'après Hadith Abi Huraira, a dit لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Si les gens savaient, ça veut dire malheureusement ils ne savent pas, et si les gens savaient quels sont les mérites du adhan, comme l'a dit le prophète par exemple, en ce sens, là, il a dit si les gens savaient quels sont les mérites du adhan, ensuite, il n'y aurait de solution que le tirage au sort. Ils auraient fait alors le tirage au sort. C'est-à-dire que par exemple, vous savez, dans une mosquée, un seul peut faire par exemple le adhan d'une prière. On ne peut pas deux, on va faire ça d'abord de adhan, un seul adhan. Il a dit maintenant, supposons qu'on veuille faire le adhan et on trouve qu'on est 3 ou 4. Comment on fait pour le adhan? Tout le monde voudrait prendre le hajj du adhan. On a un grand hajj quand on fait le adhan. Il a dit, même si on faisait le tirage au sort, il faut faire le tirage au sort et ne pas laisser ce mérite passer. Même si tu dois faire le tirage au sort, pourquoi? Pour faire le adhan, fais-le. Et il a dit la même chose en ce qui concerne pour le Sapl Awal, pour les hommes, la première rangée dans la mosquée. Première rangée, s'il y a plus de place, on va faire le tirage au sort pour voir qui va prendre le premier rang. On fait le tirage au sort. Pourquoi? Le premier rang, celui qui fait la salle dans le premier rang, ce n'est pas comme celui qui l'a fait dans le cinquième et dans le sixième rang et dans le dernier rang. Non, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire faire la salade dans le premier rang? Ce n'est pas comme quoi les gens, il vient à la dernière minute et il commence à sauter sur les coups des gens. Il saute sur les coups pour arriver à la première place. c'est pas cela le mérite. Tu es toi arrivé à la dernière minute, tu vas faire la prière au dernier rang. Mais pourquoi on a un grand ajr? Parce que tu es venu le premier, donc tu as eu le premier rang. Parce que tu es venu parmi les premiers. Ce n'est pas tu es venu le dernier, tu sautes. Pour que tu viennes parmi les premiers, voilà un délit que tu es mieux que l'autre. Tu es mieux que celui qui a retardé. Toi, tu es venu parmi les premiers. Et celui qui fait la salat dans le premier rang, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فإن الله سبحانه وتعالى يصلي عليه وملائكته الله سبحانه وتعالى هي يعني la prière sur lui sur la personne qui est dans le premier rang et aussi ses anges. Et vous connaissez la prière d'Allah, qu'est-ce que c'est, on l'a dit plusieurs fois. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr ça c'est un hadith sahih que je viens de citer maintenant, c'est Bukhari ou Muslim. Ensuite عن معاوية رضي الله تعالى عنه, معاوية رضي الله تعالى عنه le cinquième Khalifa des musulmans, l'oncle des musulmans, c'est notre oncle parce que sa sœur Ramla Umm Habiba qui était en Éthiopie, qui son mari est devenu chrétien au l'ayyadu billah, au Baydallah ibn Jahsh. Elle s'est mariée ensuite avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son tuteur c'était qui? C'était le négus. C'était le négus. Parce que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui quand n'a pas de tuteur, c'est le gouverneur qui devient son tuteur. Donc le négus, comme il a été son tuteur, c'est une preuve que quoi? Que c'était musulman, car un kafir n'a pas le droit d'avoir la tutelle sur une musulmane. Donc c'est sa soeur, c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'une des femmes. Donc c'est lui, c'est qui? Lui c'est notre oncle Muawiya radiyallahu ta'ala anhu, notre oncle Muawiya, masha'Allah alayhi, Muawiya, j'aime Muawiya, celui qui n'aime pas, lui qui n'aime pas, c'est seulement un chiite. C'est seulement le chiite qui ne peut pas aimer Muawiya. Nous tous, 40 ans, 40 ans de khalifa. Il a été parmi les meilleurs, le cinquième khalif, l'un des meilleurs khalifa, radiyallahu ta'ala anhu. C'est notre oncle, radiyallahu ta'ala anhu. J'ai dit une fois, j'ai montré une faute que, inshallah ta'ala, vous ne devez pas faire. C'est que lorsqu'on demande à certains gens, on leur dit, quels sont les khalifas de l'islam? Ils disent, il y en a 5 et ils sautent Muawiya. Ils disent, ce sont Abu Bakr, Omar, Uthman Ali et Omar ibn Abdel Aziz. Et ils sautent Muawiya radiallahu ta'ala anhu. Celui qui dit comme ça, il a un peu de chiisme sans le vouloir. Sans le vouloir. Ou bien il fait exprès. Non. Sinon, il a un peu de chiisme sans le vouloir. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Il a oublié Muawiya. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Qu'a dit Muawiya radiallahu ta'ala anhu? Il a dit, sami'tu, n'oubliez pas que Muawiya radiallahu ta'ala anhu, c'était qui? C'était l'un de ceux qui ont écrit le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'il n'écrivait pas. Il ne lisait pas, il n'écrivait pas. Alors, il avait un groupe de gens, de compagnons qui lui écrivaient le Coran. Donc, celui, ce qu'il va choisir. Il va choisir des gens pour lui écrire le Coran. Donc, il faut qu'il choisisse les meilleurs. Il ne va pas choisir quelqu'un qui a une foi faible ou là, quelqu'un qui s'est converti hier. Il va choisir quelqu'un de confiance. Il va écrire le Coran. Sinon, il va changer le Coran, il va le falsifier. Et parmi ceux qu'il a choisi, il a choisi Muawiya radiallahu ta'ala. Non, Muawiya radiallahu ta'ala. Le mouhim. Qu'a dit Muawiya radiallahu ta'ala anhu? Il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que ceux qui font l'adhan, les mu'adhin, ce sont les gens qui auront les coups les plus longs le jour du jugement dernier. Vous voyez notre coup, tous on a un coup plus ou moins long, mais les mu'adhinun viendront avec un coup vraiment long. C'est-à-dire dès que tu le vois, tu dis subhanallah, hada, c'était un mu'adhin quand il était dans le bas monde. Dès que tu le vois, tu le reconnais. À quoi? Au coup. Un coup qui est long. Je ne sais pas combien il va mettre. Peut-être 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, je ne sais pas. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais ils auront des coups qui vont les différencier de tous les autres gens. Naam. Ensuite, quatrièmement, bien sûr, ce hadith aussi, c'est akhrajahu Muslim ou Bukhari. Bukhari ou Muslim, toujours. Maintenant, quatrièmement, an Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كيف قال دي إلا دي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة خرجه البخاري ومالك. Regardez qu'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. Il a dit يعني n'entendra la voix ou la voix يعني le adhan, n'entendra le adhan يعني quand quelqu'un fait le adhan, il veut dire à peu près quand quelqu'un fait le adhan, s'il يعني le fait fort pour essayer de faire arriver sa voix un peu loin. Il a dit quiconque l'entendra, que ça soit un djinn, subhanallah al-azim, que ça soit un djinn ou bien ins, on veut dire une créature يعني de nous, يعني une personne, un être humain, ou que ça soit un djinn ou la shay'un, non seulement djinn et ins et personne, mais il a dit shay'un, que ça soit un arbre, une pierre, un rocher, une montagne, n'importe quelle chose même qui entend adhan, illa shahida lahu yawm al-qiyamah, ce sera يعني va témoigner pour lui le jour du jugement dernier. Naam, subhanallah al-azim. يعني quand on fait l'adhan, si tu peux faire le maximum plus fort, c'est le plus fort. Pourquoi? Pour que t'entendes beaucoup plus de gens et beaucoup plus de djinns et beaucoup plus de choses. Ne dis pas, par exemple, il n'y a personne à qui va faire le adhan. Il dit, bon, s'il y avait des gens là-bas loin, je vais essayer de faire un peu plus fort pour que les gens qui sont là-bas m'entendent, pour qu'ils soient témoins au Qiyamah. On te dit, il n'y a pas de gens, mais il y a des arbres qui sont là-bas un peu loin. Essaye de les faire entendre, parce que les arbres aussi, les rochers, toute chose que l'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, entend. Et vous savez, mais entend des choses spéciales, entend par exemple l'adhan. Donc toi, même si c'est pour un arbre ou là, un animal ou là, tu fais le adhan pour qu'il t'entende, pour qu'il soit témoin demain. Demain, on aura besoin, inshallah ta'ala, de qui on aura besoin des témoins. Hein? On aura besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu as témoin, plus inshallah ta'ala, tu es voué à ne pas être châtié. Non, plus tu as témoin, plus tu es voué à ne pas être châtié. Imagine quelqu'un qui vient avec 100 témoins, 150 témoins. Il était masha'Allah, qui faisait l'adhan, qui faisait la prière, qui faisait ceci. Plus on a de témoins, plus masha'Allah. Donnons un exemple très simple. Imaginez par exemple que dans un tribunal, par exemple, le juge, par exemple, va emprisonner quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui témoigne pour cette personne qu'elle est bien. Ensuite une deuxième personne témoigne, ensuite une troisième, ensuite une quatrième. Ensuite, le juge, subhanallah, maintenant toutes ces personnes sont avec lui, c'est un peu difficile d'être pour lui pour s'emprisonner, tellement tu as témoin. Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi al-mathal a'la, fait ce qu'il veut, bien sûr. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Mais plus tu as témoin devant toi, plus masha'Allah tu es voué, inshallah ta'ala, à rentrer au paradis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith aussi sahih, un Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, a dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yukhfaru lil mu'addin muntaha adhani. Non, yukhfaru lil mu'addin muntaha adhani. Yani, plus ton adhan est pas loin, quand tu fais le adhan, plus yani, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Et toi, des zounoubs, va te pardonner tes péchés. C'est pour ça que certains ulama ont dit, ils ont dit pour que tu comprennes à peu près cette chose, ils ont dit, imagine que tu es debout ici, tu vas faire le adhan. Imagine que tu es debout à cette place, tu vas faire le adhan. Ensuite, que tous tes péchés sont posés devant toi par terre. Et ils sont comme ça, ils commencent ici devant tes pieds et ils vont comme ça à 100 mètres, 200 mètres, 1 km, ça dépend combien on a de péché. Ici, le hadith veut dire, d'après ces ulama, que toi, quand tu vas faire le adhan, ça dépend où ton adhan va s'arrêter. Hein, il peut arrêter à 100 mètres, il peut arriver à 300 mètres. Ça dépend de ton gosier, ça dépend de ta volonté de le faire fort ou de ne pas le faire. Il a dit, là où va s'arrêter ton Adam, et de cet endroit, et tu reviens marche arrière jusqu'à tes pieds, tous les péchés vont être annulés. Donc, tous les péchés, masha'Allah, vont être annulés. Les péchés où l'Adam, jusqu'où l'Adam est arrivé. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَهُ » Et il a dit, quand on fait l'Adam, toute chose qui a une âme, et toute chose qui n'a pas une âme aussi, comme un caillou, comme un rocher, comme un arbre, « يَسْتَغْفِرُ لَهُ » Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Regardez le fard du Adam. Et bien sûr, on ne dit pas, comme disent les kuffars, que yani, on va avoir des doutes ou là, comment, parce que yani, les arbres vont entendre, les rochers vont entendre. Nous, non seulement on dit vont entendre, mais on dit vont demander à Allah de te pardonner. Non seulement ils entendent, mais encore ils parlent. Et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Ou bien tu crois, ou bien ça, c'est autre chose. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Il n'y a pas une chose qui ne fait pas le tisbih d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une chose. Il a dit وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تِسْبِحَهُمْ. Mais vous ne pouvez pas comprendre comment et la façon dont ils font le tisbih. Non, nous on ne peut pas comprendre. Ça ne veut pas dire que quand je ne comprends pas quelque chose, je ne crois pas en elle. Comme ça ne veut pas dire que quand je ne vois pas quelque chose, je ne crois pas en elle. Moi, je ne vois pas le djinn, je sais qu'il y a des djinns. Je ne vois pas le paradis, il n'est pas en face de moi, je sais qu'il y a le paradis. Je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je sais qu'il y a eu le prophète, je crois en lui. Je sais que je n'ai pas vu l'enfer, je sais qu'il y a l'enfer. Je n'ai pas vu la tombe, je sais qu'il y a le supplice de la tombe. Et comme ça. C'est ça le croyant. Maintenant, si on ne croit qu'aux choses qu'on voit, ça, on est des kafirs. Et le kafir qui pense comme ça et qui réfléchit comme ça. Le musulman, il a cet avantage de croire à l'invisible. On lui dit seulement des choses, il croit. Naam, c'est ça le vrai iman. Donc nous, on croit que quoi? On croit qu'il n'y a pas une chose. Allah subhanahu wa ta'ala a créé et qu'il ne dise pas subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naam, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et on croit plus que ça aussi. On croit que. On croit que le soleil, et que la lune, et que les étoiles, et que les montagnes, et que les arbres, et que les animaux, tout cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la prosternation à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se prosternent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ils se prosternent. Nous, on ne voit pas comment. Allah subhanahu wa ta'ala sait comment. Non, Allah sait comment ces choses se prosternent. C'est lui qui a dit dans le Coran, « Alam tara anna Allah, ne vois-tu pas que Allah subhanahu wa ta'ala يَسْجُدُ لَهُ lui fait la prosternation مَنْ فِي السَّمَوَاتِ yani ceux qui sont aux cieux, les anges, etc. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ et ceux qui sont sur la terre. Ensuite il a dit وَالشَّمْسُ et le soleil, ça veut dire il fait la prosternation وَالْقَمَرِ et la lune fait la prosternation وَالنُّجُومِ les étoiles وَالْجِبَالِ les montagnes وَالشَّجَرِ les arbres وَالدَّوَابِ et tous les créatures qui marchent, il y a debout. Subhanallah l'Azim, il a dit, wa kathirun min an-nas, et beaucoup de gens. Naam. Ça, c'est une preuve que, quoi, que, yani, comme j'ai dit, quand on fait le Adhan, on essaye de le faire fort au maximum pour essayer de, yani, de faire beaucoup de témoins, yom al-qiyamah. Ensuite, un autre hadith qui montre les mérites du Adhan. C'est ce qu'a dit Aïcha radiallahu ta'ala anha quand elle a dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'imam dhamin wal mu'adhdhin mu'taman. Ensuite il a fait un dua fa arshad Allahu al-a'imma wa'afa an al-mu'adhdhin. Aussi c'est un hadith sahih. Al-Bani a dit sahih. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'imam il est garant, il te garantit la salat. Quand tu fais la salat derrière un imam, alhamdoulilah, c'est lui qui porte la responsabilité. C'est lui qui a toute la responsabilité parce que c'est lui le garant. Il a dit wal mu'adhdhin mu'taman. Et celui qui fait le adhan, alhamdoulilah, c'est lui qui est le confiant. Ça veut dire en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne est-ce que c'est l'heure ou est-ce que c'est pas l'heure. Toi, c'est pas, cette chose n'est pas de ton ressort. Toi, quand tu entends le adhan, c'est lui le confiant, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui a la responsabilité de voir la montre, de voir est-ce que le soleil s'est couché ou là pour qu'il passe le adhan. C'est pas de notre ressort yani, d'aller yani, vérifier. Il a fait le adhan, khalas. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الرجل بأرض قيم في الكوفة عليه الصلاة والسلام أدي كون quelqu'un est كون quelqu'un est dans في أرض يعني dans une terre dans un endroit disant où c'est désertique il a dit فحانت الصلاة il a dit maintenant c'est l'heure de faire la prière. Il a dit فحان الصلاه فليتوضا. Donc qu'il fasse le wudu. Naam, qu'il fasse le wudu. Il a dit فإن لم يجد ماء يتيمم. S'il ne trouve pas d'eau, il fait le tayammum. On ne fait pas comme beaucoup de gens, il n'y a pas d'eau. Donc ce soir je vais faire la prière inshallah. La nuit, je vais faire inshallah le asr. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai pas trouvé d'eau. On n'a pas trouvé d'eau, il y a le tayammum. Tu ne cherches pas l'eau. L'eau, il n'y a pas là. Aux alentours devant toi, il n'y a pas l'eau, tu prends Inch'Allah Ta'ala directement le tayammum. Que le prophète sallam a dit, fais le tayammum. Il a dit, fa'in aqama. Donc, c'est une personne qui est seule là, seule dans un endroit désertique, il n'y a pas d'eau, maintenant elle a fait le tayammum. Ce qu'il a dit, le prophète sallam a dit, il a dit, fa'in aqama. Si cette personne va faire l'iqama, Allahu Akbar, 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 deux anges vont faire la prière avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'Iqama. Deux anges vont se mettre derrière lui et faire la prière avec lui. Il a dit wa in adhana wa aqama. Mais s'il fait le adhan plus l'Iqama, il a ajouté le adhan maintenant, même s'il est seul, il a fait le adhan ensuite l'Iqama. Il a dit salla khalfahu min junudillah ma la yura tarafa. Subhanallah al-Azim. Il a dit mais s'il fait le adhan ensuite l'Iqama, vont faire la prière derrière lui des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire des anges, mais la yura tarafa, on ne peut pas voir, yani, il veut dire ici qu'on ne peut pas compter. Yani, le nombre, par exemple, va commencer ici, on ne peut pas voir où ça va terminer leur nombre. C'est des milliers, c'est des millions. À cause de quoi? À cause que tu as fait le adhan quand tu étais seul et tu as fait l'iqama. Donc regardez le quoi, regardez le fadl, yani les mérites de infini. Naam. Regardez les mérites de quelqu'un qui fait le adhan et qui fait aussi l'iqama. C'est pour ça que quand tu fais le adhan et l'iqama, tu es seul, tu fais l'adhan et l'iqama, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Rappelle-toi que il y a beaucoup de gens, même des gens, yani, je veux dire des anges. Il y a maintenant des milliers peut-être, des centaines ou des milliers d'anges qui sont derrière toi. Tu vas quoi? Tu vas les guider dans la prière. Et aussi, dans un autre hadith qui est aussi sahih, naam, c'est un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ya'jabu Rabbuka. Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. Ya'jabu Rabbuka, Azza wa Jal, de qui? Il s'étonne de qui? Min ra'i ghanam, d'un berger. Un berger avec des moutons à la ra'si shabiyya, sur le sommet d'une montagne. Il y a un berger sur le sommet de la montagne avec son troupeau. Il a dit bi jabalin yu'adhdhinu lis-salati wa yusalli. Naam, qu'est-ce qu'il fait cette personne? Elle fait le adhan et elle fait la salat. Subhanallah al-Azim. Il est seul là, il fait le adhan, il fait la salat. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'a dit le hadith? Il a dit 7 ans de cette personne. Il a dit Allah azza wa jal, que dit Allah azza wa jal? انظروا الى عبدي، regardez ma créature، regardez mon esclave، regardez، انظروا الى عبدي هذا، regardez cet esclave ou la cette créature qui est la mienne bien sûr. Il a dit يؤذن ويقيم للصلاة، يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. Regardez ma créature. Elle fait le adhan, elle fait la salat, elle a peur de moi. Ghafartu, faqad ghafartu li'abdi. J'ai pardonné à mon serviteur wa adkhaltuhu al-jannah. Et je le ferai, et je le rentrerai au paradis. Naam, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc remarquez, cette personne elle est où? Elle est au sommet de la montagne toute seule. Elle dit pas quoi? Elle dit pas, moi je fais pas le adhan, je suis seule. Parce que certains gens croient que le adhan c'est seulement pour apprendre aux gens que c'est l'heure de la salat. Et nous on dit non, c'est pas seulement celle-là. Ça c'est une des causes. Mais le adhan a beaucoup de causes. Regardez mon serviteur, il appelle à la prière et accomplit ses prières. Il est dans ma crainte, j'ai pardonné à mon serviteur, je lui ai pardonné ses péchés et je l'ai admis dans le paradis. Naam, donc quand on est seul, on se dit pas quoi? On se dit pas. Pardon, je voulais dire donc le adhan c'était pas seulement pour que les gens sachent que c'est l'heure de la prière, mais c'est aussi pourquoi? C'est aussi pour premièrement que t'entendes les djinns et t'entendes les arbres, t'entendes les rochers, t'entendes les cailloux, et le plus fort possible. Et deuxièmement parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, et c'est une preuve de peur. Il a dit Umburu Abdi, regardez ma créature, a peur de moi, il est dans ma crainte. Le fait de faire le adhan et de faire la prière quand on est seul. Naam. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Est-ce qu'il reste quelque chose qui est fadl al-mu'adhan? Est-ce qu'il reste quelque chose? Naam. Ensuite, on va parler de comment le adhan a commencé. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه باسكو صابو فارو يا في با الاذان انت نون الاسلام سي نوفو لا بريير فيان جوست دتر يعني اكريت maintenant la prière vient d'être, elle est obligatoire, quelque chose de nouveau, mais il y a pas le adhan. Comment qu'a commencé le adhan? عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه il a dit كان المسلمون حين قادموا المدينة يجتمعون. Les musulmans, qu'est-ce qu'ils faisaient auparavant quand ils sont arrivés à Medina? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se groupaient. فَيَتَحَيَّنُونَ صَلَةً لَيْسَ يُنَادَ لَهَا. Ils se groupaient et attendaient un peu, yani ils disaient pour faire la salat. Donc à chaque fois, ils se groupaient et ils attendaient un peu pour choisir le moment, yani pour faire la salat. Il a dit, فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا كِلَ. Un jour, ils ont parlé, ils ont dit, est-ce qu'on va essayer de trouver une solution? قال بعضهم quelques-uns ont dit اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. Prenons une cloche comme la cloche des chrétiens. Les chrétiens ont une cloche, on entend le sentiment du cloche. Ils ont dit prenons une cloche qu'on prend les chrétiens. وقال بعضهم, et d'autres ont dit بالبوقا مثل قرن اليهود. D'autres ont dit que si on prenait avec le corps avec C-O-R ou une trompe avec comme font les Yahoud. Les Yahoud, ils ont avec le corps. فقال عمر, alors عمر مختار رضي الله تعالى a dit أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. Pourquoi vous n'envoyez pas quelqu'un appelé pour la salat? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم تنادي بالصلاة. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم a dit يا بلال, lève-toi, va appeler à la prière. Le hadith أخرجه البخاري ومسلم. Dans un autre hadith qui est le plus connu, c'est que Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam yani amara bin naqus yu'mal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu prendre la cloche, hein, la cloche pour dire que c'est le moment de la salat, il a dit alors que j'étais endormi, j'ai vu quelqu'un dans le songe, j'ai vu quelqu'un qui avait une cloche dans sa main. Faqultu ya Abdullah tabi' an-naqus, je lui ai dit ya Abdullah, est-ce que tu me vends la cloche? Est-ce que tu me vends la cloche? Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec la cloche? Pourquoi tu veux l'acheter? Pour tout, j'ai dit, pour appeler les gens pour faire la salat. Il a dit, toujours c'est dans le songe, dans le rêve. Il a dit, je ne voudrais pas que je te montre quelque chose de mieux que la cloche. J'ai dit, si, montre-moi. Donc celui qui me parlait dans le songe m'a dit, tu dis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ensuite il a dit, le songe n'est pas terminé, il a dit, thumma istakhara anni ghayra ba'id, il a dit ensuite il s'est éloigné un peu, pas très loin. Ensuite il m'a dit, et tu diras si tu fais l'iqama. Quand tu fais l'iqama, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shadun la ilaha illallah, Shadun la ilaha illallah, pardon, Shadun la ilaha illallah, Shadun Muhammad Rasulullah, Hayya ala salat, Hayya ala falah, Qad qamati salah, Qad qamati salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tout ça dans un songe, Masha'Allah. Il a dit, falamma asbaht, quand je me suis réveillé le matin, أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جسمي بقي وقفة صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت جلوية غفنت سكجي بدون لغاف الماضي إنها لا رؤية حق إن شاء الله إتن غي صنج نعم إتن صنج بالله سبحانه وتعالى نعم كهو نبي ديك لصنج ديبيني عن طوى لصنج بالله دي شيطان إتبي دي نومن إلا دي سا إن شاء الله إن غي صنج بريدي إلا دي فقم مع بلال فألقه عليه فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به. Lève-toi, va chez Bilal, lève-toi avec Bilal, et tu lui racontes, tu lui dis ce que tu as entendu, ce que tu as entendu dans le sens, pour qu'il dise la même chose. فإنه أندى صوتا منك. Il a dit, Bilal a une voix, yani, mieux que toi. Et toi, tu as vu, certes, dans le sens, mais c'est pas toi qui va faire le adhan, parce que Bilal a une voix, yani, mieux que toi, plus forte, etc. Il a dit, فقمت مع Bilal, je me suis levé avec Bilal, فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. Et je lui disais, et Bilal répétait. Je lui disais, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal disait, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shahadu la ilaha illallah. Il disait, Shahadu la. Et comme ça. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته. Il a dit, Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala a entendu Bilal faire le adhan de sa maison. Et Omar était dans sa maison. فخرج يجر رداءه ويقول. Il est sorti en courant. والذي بعثك بالحق يا رسول الله جوجور فار الله يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أريا que j'ai vu exactement ce qu'a vu le sahabi يعني عبد الله بن زيد parce que Omar quand il est venu en courant il a demandé aux gens qu'est-ce qui s'est passé on lui a dit عبد الله بن زيد a vu un songe voilà يعني ce qu'il a vu il a vu qu'on doit dire comme ça ces paroles alors Omar ibn al-Khattab a dit والله العظيم يا رسول الله j'ai vu la même chose dans le songe c'est-à-dire il y a quelques jours فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد le prophète صلى الله عليه وسلم a dit الحمد لله dans un autre hadith il lui a dit pourquoi tu ne m'as pas dit pourquoi tu ne l'as pas dit il a dit لما سبقت استحييت il a dit quand يعني j'ai vu quelqu'un qui m'a dévanté il l'a dit avant moi j'ai eu honte j'ai dit ça se fait pas quelqu'un m'a dévanté خلاص c'est pas la peine que je dis non donc chauffe Allah subhanahu wa ta'ala dans le songe il peut faire quoi il peut yani, choisir certaines personnes bien sûr et les mettre de sorte qu'ils soient la cause de la sharia non qu'ils soient la cause de la sharia non comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Touba liman ja'alahu Allah miftahan min khayr Touba il y a un grand vous connaissez c'est l'arbre là, qui est au paradis il a dit pour quelqu'un que Allah fait de lui une clé pour le bien dis-toi quand tu vois quelque chose dans le songe comme celle-là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'appliquer subhanallah al-azim tu as été la cause pour que les gens fassent le adhan car c'est toi qui as vu ça dans le songe maintenant une petite parenthèse ici peut-être certains gens diront, surtout les soufis, ils vont dire, donc voilà, Inch'Allah, Alhamdulillah, voilà un hadith qui montre que yani, on peut prendre notre religion des songes. Des songes. C'est comme ça que disent les soufis. Ils disent j'ai vu dans le songe, ou bien mon cœur m'a dit que Allah a dit. Non, directement. Haddathani qalbi an rabbi. Directement, haddathani qalbi an rabbi. Mon cœur m'a dit, Allah a dit. La hawla wa la quwwata illa billah. Nous on dit, le prophète sallam a dit, Allah a dit. Le prophète sallam a dit que Allah a dit. C'est pas mon cœur a dit, ni le songe a dit. Là, eux ils se basent sur leur cœur et les songes. Là, ils vivent avec les songes. Al-Sunnah wa Jama'a disent, quand on voit quelque chose dans le songe, on ne doit pas yani, se baser sur cette chose pour yani, faire la sharia. Pour faire, par exemple, je donne un exemple, supposons que je sois gouverneur. Supposons que je sois gouverneur des musulmans. Maintenant, je vois dans le songe que X a volé. Je ne peux pas quoi ? Je ne peux pas lui couper la main à cause de ce que j'ai vu dans le songe. Je vois quelqu'un boire de l'alcool. Je ne peux pas le fouetter et dire parce que j'ai vu dans le songe tu as fait ceci ou cela. Non. La sharia se prend du Coran et de la Sunna. On ne prend des songes que quoi? Que les choses qui yani les bonnes nouvelles et pour s'éloigner quand on a une mauvaise nouvelle dans le songe. C'est quoi dans le songe? On voit une mauvaise nouvelle yani tahdir pour être prudent, mais on ne prend pas la sharia, comme prend les soufis, etc. Ils prennent la sharia de quoi? Du songe. Maintenant, si quelqu'un dit pourquoi celui-là, il a vu le Evan dans le songe et c'est devenu sharia et on l'a pris. Pourquoi celui-là, on a pris son songe? On dit celui-là, quand il a dit le Evan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consenti. Donc nous, on a pris le consentement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas pris yani, ce qu'a dit l'autre seulement. Yani, voilà la différence. Une personne a dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consenti. Il a dit ça c'est bien. C'est une ru'ya d'Allah subhanahu wa ta'ala et il l'a utilisé. Donc, si quelqu'un de nous voit quelque chose maintenant, où est le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il te dise, pour qu'il consente, pour qu'il te dise oui et on va la faire? S'il y avait le prophète alayhi sallam, d'accord, les rêves auraient joué un rôle quand il entendrait lui le rêve et il consentait. Maintenant, il n'y a pas le prophète sallallahu alayhi sallam, il est interdit à quiconque de se baser sur un rêve pour, et bien sûr, il y a des gens mal assez qui se basent sur les rêves et pour des jugements sur les gens. Il y a des gens qui, se basant sur les rêves, yani, commencent à ne plus parler aux gens ou là, commencent à penser d'eux, des choses qui ne sont pas bien ça, alors que le shaitan joue un très 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 grand rôle dans le rêve. Le shaitan joue un très 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 grand rôle dans le rêve. Non. Le azan est obligé. On est obligé de le faire, mais ce n'est pas une obligation personnelle. Si on est un groupe, un seul le fait, ça nous suffit. Ou à fardou kifaya. C'est pas la peine que yani, on ne peut pas que tout le monde se lève et fasse le azan. Yani, le azan, si quelqu'un, une seule personne le fait, ça nous suffit. Pourquoi? Parce que c'est fardou kifaya. Naam. Le azan, quand on le fait, il y a des mots à dire et il y a une façon de le dire. Il y a des mots qu'on ne peut ni ajouter ni retrancher. Et il y a une façon de le dire. On va dire quels sont maintenant les mots qu'on doit dire. Et, en parenthèse, la façon de le faire, c'est de le faire le plus normalement du monde. Si on a une belle voix, c'est bien. Si on a une voix, si on a un gosier qui est fort, c'est mieux aussi, c'est bien. Mais on ne doit pas faire le tilhim dans le adhan. On ne doit pas faire le tilhim dans le adhan. Le tilhim, vous savez c'est quoi le tilhim? Le tilhim, c'est faire comme de l'écho. Par exemple, il dit Allah, on entend beaucoup de gens. On doit le faire normalement, Allahu Akbar, comme on le fait, yani sans faire donc les quoi, donc, tout ça, c'est, ça se fait pas et c'est haram, ça se fait pas. Prolonger, je ne sais pas si c'est prolongé, hein. Je ne crois pas. Prolongé, c'est yani, peut-être, je ne sais pas. Moi, vous avez compris ce que je veux dire. Parce que, premièrement, ce n'est pas de la sunna. Ce n'est pas de la sunna. Deuxièmement, surtout, chanter. Surtout quand tu le fais, surtout quand tu arrives au mot d'Allah. Si tu le dis, par exemple, Hayya ala salah, plus ou moins. Mais quand tu arrives au mot Allah, Allah, ça, c'est haram. Pourquoi? Allah, c'est le nom, le plus beau nom de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un nom, Allah, Allah, c'est un nom. Comment je m'appelle Mohammed, je m'appelle Omar, Allah, Allah, c'est un nom, le plus beau nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne fait pas comme ça avec son nom, on doit être poli. Imagine-toi seulement, tu t'appelles par exemple Omar, je t'appelle oh, Mar. Tu vas t'énerver, tu me dis, écoute, moi je m'appelle Omar, hein, c'est pas comme ça. Fari, fa, 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 ri, 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 ri. Farid. On dit Farid normalement. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être très poli avec lui. On ne peut plus poli avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih, Cheikh Al-Albani a mis dans son livre qui s'appelle Silsila Sahiha. Je crois que c'est le premier tome ou le deuxième. Ah, ça fait longtemps que j'ai lu ça, peut-être 25 ans ou là. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais je me souviens que c'est un hadith sahih. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quelqu'un est venu à Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, vous connaissez comment il aimait la sunna, comment il a pratiqué. Quelqu'un est venu à Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Ya Abdullah, je t'aime en Allah. Uhibbuka fillah. Qu'a répondu Abdullah ibn Omar? La hawla wa la quwwata illa billah. Si c'est nous, yani, peut-être on aurait honte, on aurait dit, Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Il lui a dit, Amma ana, fa ubghiduka fillah. Il lui a dit, quant à moi, je te déteste en Allah. Subhanallah al-Azim. Quelqu'un te dit, je t'aime en Allah. Tu lui dis, quant à moi, je te déteste en Allah. Pourquoi? Parce que je disais que Abdullah ibn Omar, c'est quelqu'un qui ne jouait pas avec la sunna. Il ne joue pas. Alors, pourquoi? Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que tu fais deux choses. Premièrement, tout le chien fait l'adhan. Quand tu fais le adhan, tu fais premièrement. Deuxièmement, tu prends de l'argent pour le adhan. Non, tu ne fais pas le adhan qui s'abîme. Tu le fais en contrepartie. Il m'a dit, c'est pour ça que je te déteste en Allah subhanahu azza wa jalla. Non. Maintenant, le adhan, il a ou bien 15 mots, ou bien 19 mots. Ou bien 15 mots, ou bien 19 mots. Il y a un hadith dans Muslim où il est dit seulement 13 mots. 13 mots. Mais les ulama ont dit, on marche avec celui de 15 ou bien 19. Parce que ça s'appelle ziyadat ou fiqa. Quand il y a quelque chose de plus, on prend le plus. On ne prend pas le moins. Quand il y a quelque chose de plus, on prend le plus. On ne prend pas le moins. Dans le hadith Abdullah ibn Zayd, celui qu'on venait voir où il a vu quelque chose dans le songe, l'ange qui lui a parlé dans le songe lui a dit 15 mots. Lui a dit 15 mots. Allahu Akbar, ça fait 2. Allahu Akbar, ça fait 4. Vous comptez, vous allez trouver 15. Et on peut le faire aussi avec 19. Comme dans le hadith de Abi Mahdoura, radiallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'on fait quand pour faire 19, qu'est-ce qu'on doit faire? On dit comme ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça fait 2. Allahu Akbar, ça fait 4. Ensuite, à voix basse. On ne fait pas entendre les gens. On fait entendre soi-même, c'est tout. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ensuite, à voix haute. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هون تأمين حياة الصلاة حياة الصلاة حياة الفلاح حياة الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صافي بيزنا فصفر الترجيع ce que je viens de faire ça s'appelle le tarji' des fois on le fait des fois on le fait pas c'est pour ça que celui qui a écrit ce livre l'Aouaïcha حفظه الله a dit وسألت شيخنا، جي دوموندي الشيخ الألباني الله يرحمه، هل الأصل الإكثار من أذان بلال أم أذان أبي محذورة؟ Qu'est-ce qu'on doit faire le plus? On doit faire l'Adhan de Bilal, c'est-à-dire seulement 15, ou bien on fait l'Adhan de Abi Mahdoura 19, avec un peu à voix basse, ensuite à voix haute. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Le Cheikh Allah Yirhamou, Cheikh Al-Albani a répondu, Laysa indana shay'un yuhaddid al-akthar min al-adhanat al-thabita fi sunnah. On n'a pas quelque chose qui montre qu'est-ce qu'on doit faire sur lui. Quel est le genre que le prophète Hassan a fait le plus? Est-ce celui de 19 ou celui de 15? Innama sunnah an yunawwa. Et la sunnah, c'est de faire des fois celui-là, des fois l'autre. Il a dit, wasa'altu an al-tarji'. Et en ce qui concerne baisser un peu la voix, il a dit, ahyanan. Oui, tu le fais de temps en temps. De temps en temps, tu fais le adhan ou tu baisses la voix avant de dire shahadu la ilaha illallah, shahadu muhammadan rasulullah. Tu baisses la voix, ensuite tu le fais à voix haute. Donc la sunna, c'est une règle générale. Dans les invocations, la sunna, on change. On change. Des fois, quand je fais salat al-dhuhr, par exemple, quand je m'incline, je dis subhan rabbil azim wa bihamdi, subhan rabbil azim wa bihamdi, subhan rabbil azim. Par exemple, dhuhr. Al-asr, je change. Quand je m'incline, je dis et comme ça je change des fois quand je termine la salat, ou si je change des fois, je dis certaines invocations, par exemple je fais des invocations, je lis ayat al-kursi. Dans une autre salat, je lis mu'awwidhat, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Je change, mais je change toujours dans les choses qui existent, que le prophète a fait. Ça ne veut pas dire comme ça, tirer de ma tête des choses. Je change dans les choses qui est un éventail. Qui est un éventail d'invocations, je choisis. Je dis par exemple, cette salat, je la fais avec ces invocations, cette salat avec ça. C'est à peu près aussi dans le Adhan. Des fois tu fais celui-là, des fois tu fais l'autre Adhan. Ensuite, wujub tartib al-Adhan. Il est obligé, on est obligé, quand on fait l'Adhan, de le faire comme il est, de ne pas mélanger. C'est-à-dire, on le fait, comme il est murattab. On dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shahadun la ilaha illallah. On ne peut pas commencer par exemple par Shahadun la ilaha illallah, c'est qu'on dit Allahu Akbar. On doit le faire comme, il nous est arrivé. On doit le faire ordonné, dans l'ordre. On n'a pas le droit de mélanger. Mélanger, on commence par la fin, on commence par le milieu. On commence par Allahu Akbar, Allahu Akbar. On termine par la ilaha illallah. Naam. Ensuite, il a dit tatwib al-mu'adhdhin fi salat as-subh. Il a dit min sunna, la sunna, c'est quand c'est salat as-subh. Salat as-subh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit salatu khayrun min an-nawm. Salatu khayrun min an-nawm. Et certains disent qu'on le fait dans le deuxième adhan, alors que ce n'est pas vrai. On le fait dans le premier adhan. Le adhan, comme a dit Cheikh Al-Albani, celui qui est un quart d'heure avant le adhan de la prière. Ce premier adhan, il est fait spécialement pour que on se lève, et celui qui veut jeûner va manger le sahur, et celui qui a une janaba, il va se laver. Celui qui a la janaba, il se lave et il se prépare pour le adhan. Là, je n'ai jamais entendu qu'il y avait un faux adhan. Jamais de ma vie j'ai entendu qu'il y a un faux adhan. Tu veux dire peut-être le faux fajr, c'est pas le faux adhan. Le adhan, il n'y a que le vrai. Je voulais dire donc c'est seulement dans le premier adhan, et seulement dans le premier adhan qu'on dit as-salatu khair min nom. On ne dit pas dans le deuxième adhan as-salatu khair min nom comme font certains gens. Et le vrai, c'est non. D'ailleurs, si tu dis dans le deuxième as-salatu khair min nom, la prière est mieux que le fait de dormir. Déjà, il y a eu un adhan devant toi. Il y a eu le premier adhan. C'est le premier adhan qui trouve les gens en train de dormir. Il leur dit salat khair min nom. C'est pas le deuxième. Le deuxième, il a été déjà précédé par un adhan. Hatta logiquement, ça ne marche pas. Même logiquement, ça ne marche pas. Ensuite, Cheikh va parler de la iqama. La iqama, inshallah ta'ala, on va la laisser pour la prochaine fois, la iqama. Mais je voudrais dire que, allez, pour avancer un peu, je vais la dire comme ça très vite, pour avancer. la ikama ifradu kelimatiha illa takbir al-awwal illa takbir al-awwal wal-akhir fiha at-tathniya comme on fait l'ikama on dit Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah on double pas sauf le début je dis deux fois Allahu akbar Allahu akbar ensuite une fois ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat hayya ala al-falah qad qamat as-salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah donc qad qamat as-salat je l'ai dit deux fois non qad qamat as-salat je l'ai dit deux fois. Et on peut la faire d'une autre façon aussi. On la fait presque comme le Adam de 15. C'est-à-dire, on peut faire comme ça dans la Iqama, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. On ajoute Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shadun la ilaha illallah. Shadun la ilaha illallah. Shadun Muhammadan Rasulullah. Shadun Muhammadan Rasulullah. Hayya al-salat, hayya al-salat, hayya al-falah, hayya al-falah. Qad qamat salat, qad qamat salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Naam. C'est-à-dire on peut la faire aussi comme le Adhan du premier de Bahdoura où il y a 15, où il y a 15, et on ne peut pas la faire avec le 19. Le 19, on ne peut pas, on peut la faire seulement avec 15. Naam. Autre chose, pardon, pas le Abi Mahdoura, le Adhan de Zayd, de Abdullah ibn Zayd et de Bilal, où c'est 15. Maintenant que dit celui qui entend le muadzin? Yaqulu mithla ma yaqul muadzin. On dit comme on entend le muadzin. Sauf lorsqu'il dit hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Donc le muadzin quand on l'entend, on dit comme il dit. Lui il dit Allahu akbar, Allahu akbar, nous on dit Allahu akbar, Allahu akbar. Il dit shahadu la ilaha, on dit la même chose. Shahaduna Muhammad Rasulullah, on dit la même chose. Seulement lorsqu'il dit Haya al-Salah, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite il dit Haya al-Salah, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite il dit Haya al-Falah, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Haya al-Falah, La hawla wa la quwwata illa billah. Cheikh Al-Albani a dit, Allah yahmou, même si tu veux dire seulement ce qu'il dit, c'est aussi possible. Ça veut dire, même quand il dit lui Haya al-Salah, tu peux dire Haya al-Salah. On dit Haya al-Falah, il dit Haya al-Falah. C'est aussi possible. Pourquoi? Car le prophète a dit, tu dis comme il a dit. Et pour dire comme il a dit, il faut que tu dises exactement ce qu'il a dit. Mais le plus connu et la sunna la plus répandue, c'est que lorsqu'il dit Haya al-Salah, tu dis La hawla wa la quwwata illa billah. Et lorsqu'il dit Haya al-Falah, tu dis La hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Ensuite, il y a une autre chose. Il y a aussi une sunna laquelle quand il dit le muadzin, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et puis il dit Ashhadu an la ilaha, tu dis, c'est une sunna si tu veux, de temps en temps que tu dis, lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, tu dis wa ana. Tu dis pas Ashhadu an la ilaha, tu dis wa ana, ça dirait moi aussi. Ensuite lui il dit Ashhadu an la ilaha illallah, tu dis et moi aussi, ça dirait moi aussi. Je fais comme toi, je dis comme toi. Il dit Shahaduna Muhammad Rasulullah, tu dis moi aussi. Il dit Shahaduna Muhammad Rasulullah, tu dis moi aussi. Ensuite, toutes les autres choses, tu dis normalement, et tu répètes la même chose qu'il dit. Car ce hadith, c'est un hadith de Muawiya aussi. C'est un hadith dans Muslim où un sahabi a dit j'ai entendu Muawiya. Il dit déjà sur le mimbar, il entendait le adhan. Il a dit quand Muawiya est arrivé à. Quand le adhan est arrivé, shahadu an la ilaha illallah, Muawiya a dit moi aussi. Ensuite il a dit shahadu an la ilaha, il a dit moi aussi. Ensuite on lui a demandé, il a dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ainsi. Naam. Autre chose. Naam. Ensuite Al-Albani, Allah yarhamou, va donner des dalils que le fait de répondre avec le adhan, le fait de l'imiter, que ce n'est pas obligé, c'est juste une sunna. Certains gens croient que c'est obligé, que tu as fait haram, que tu ne réponds pas avec l'imam, que tu ne le suis pas. Cheikh Al-Albani a dit, c'est seulement une sunna. Il a dit, ce n'est pas, yani, une obligation. Il a dit, d'après le athar de Tha'laba, ibn Abi Malik, القرضي نعم قال إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب. Il a dit que les Sahaba, quand Omar ibn Khattab montait sur le minbar et s'asseyait, et que le Mu'adhan commençait à faire le Adhan, il a dit les Sahaba, les compagnons, يتحدثون حتى يسكت المؤذن. Les compagnons parlaient jusqu'à ce que le Mu'adhan se taisait. فإذا قام عمر على المنبر, et puis quand Omar se levait, radiallahu ta'ala anhu, لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبته كتيهما خطبتيه كتيهما. Donc il a dit voilà un hadith des sahaba que quand Omar ibn Khattab s'assied pour permettre au muadhan de faire le adhan, les compagnons se parlaient. Ensuite le adhan est en train de faire le adhan, les compagnons se parlaient, certains ne suivaient pas le adhan. Ensuite quand Omar se levait pour commencer la khutba, inalhamdulillah, tout le monde se taisait. Donc il a dit Cheikh Al-Albani, voilà un délit que les compagnons, si c'était obligé, ils n'auraient pas laissé cette obligation et se seraient parlé pendant le adhan. Ensuite, il a dit aussi, il y a un autre hadith où il a dit, quelqu'un a dit, Adraktu Omar wa Othman, j'ai rencontré ou j'ai vécu au temps de Omar wa Othman, fa kan al-imam idha kharaj yawm al-jumu'ah tarakna as-salat. Ils ont dit, quand on voit l'imam rentrer dans la mosquée, on s'arrêtait de faire la nafila, on faisait plus le salat nafila. فإذا تكلم تركنا الكلام. Et quand il commençait le prêche, il disait Alhamdulillah, on arrêtait de parler. Ça veut dire que tant qu'il n'avait pas commencé le prêche, on pouvait parler. Ça veut dire que même quand l'adhan, il fait l'adhan, on peut parler. Et Cheikh Al-Albani a dit ici, il a dit plusieurs fois, on me demandait quelle est la preuve que le suivre le adhan n'est pas une obligation. Il a dit, je leur donnais ces deux délits. Je leur donnais ces deux délits que n'était pas obligé de suivre le adhan. Il y a aussi autre chose, il y a un hadith où il est dit, si je le trouve ici, il est dit que Nam Man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin, un hadith sahih où le prophète Al-Sultan a dit, quiconque dit lorsqu'il entend le mu'adhdhin, lorsqu'il l'entend, il dit ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. Il a dit quiconque s'il entend le mu'adhan, il dit cette phrase, شهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهدوا محمد عبد وأن محمد عبد ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. Allah سبحانه وتعالى il lui annule tous ses péchés. Il a dit ici, je lui ai demandé, j'ai demandé à Cheikh Al-Albani, c'est-à-dire, lorsqu'il termine le Adhan, je dis cette phrase, ou bien khilali, ou bien à l'intérieur du Adhan. Il a dit, Cheikh Al-Albani a répondu, si tu remarques, le fait de suivre le Mu'adhan n'est pas obligé. Donc tu peux dire cette phrase où tu veux, ou bien au milieu, ou bien à la fin du Adhan. Mais moi j'ai cherché, j'ai trouvé dans un livre de Cheikh Al-Albani qui s'appelle Samr al-Mustatab, où il a dit la sunna de dire cette phrase, c'est quand le Mu'adhan dit Ashhadu an la ilaha illallah. Ça veut dire, quand le Mu'adhan dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, je dis comme lui, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je dis Allahu Akbar, Allah. Ensuite quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, c'est de la sunna de vérité. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abdu rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islam dinan. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala t'annule tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala t'annule tous les péchés. Ensuite quand le muadhan termine, qu'est-ce qu'on dit? On dit le doua qui est très connu, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit quiconque dit lorsqu'il entend le adhan, il dit Allahumma, yani lorsqu'il termine le adhan, quiconque dit Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-ta'imah, pardon, tammati, au salat il qa'ima ati muhammadan wasilata, wasilata c'est un rang yani dans le paradis, ou le fabila ou ba'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'atah, il a dit halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah, ça veut dire que je lui ferai la l'intercession le jour de la résurrection, je lui ferai shafa'a l'intercession le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-wasila al-fadila, et il lui envoie al-maqam al-mahmoud. Maqam al-mahmoud, quand les gens seront dans les vrais problèmes le jour du jugement dernier et ils sont dans la misère, etc., et que personne ne peut faire l'intercession pour que Allah subhanahu wa ta'ala vienne aux gens. Alors ils diront à Adam, il dit je peux pas, ensuite ils vont à Nuh, il dit je peux pas, Ibrahim il dit je peux pas, et comme ça, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Isa alayhi salam, il va dire allez à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, allez voir Muhammad, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira d'accord, ma'am, d'accord, c'est moi, inshallah ta'ala, et il va se prosterner à demander Allah subhanahu wa ta'ala de tahoula ou la quwata. Ça s'appelle maqam al-mahmoud, et seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut faire cela yawm al-qiyamah. Mais certains disent lorsque le mu'adhan ils font le dua, ils disent comme ça, par exemple ils disent la ilaha illallah ils disent Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa at-tamma, regardez ce qu'ils disent, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa at-tamma wa salat al-qa'ima, jusqu'à présent c'est juste. Ensuite ils disent ati muhammadan الوسيلة أتي محمد أتي pardon أتي سيدنا محمد أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Ils ont ajouté سيدنا, le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est notre سيد, ou ce n'est pas notre سيد, c'est notre سيد, le سيد, le maître, صح, lui le سيد. Mais est-ce que parce que c'est un Seyyid, sallallahu alayhi wa sallam, je vais ajouter le mot Seyyid? Je n'ajoute pas. Non. Parce que ce sont des choses que tu dois les dire comme le prophète alayhi wa sallam les a apprises. Je ne peux ni ajouter ni retrancher dans les invocations. Les invocations, ce sont du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux ajouter ni un mot, ni une lettre, ni retrancher. Ici, ceux qui disent Ati Seyyidana Muhammad, au lieu de dire Ati Muhammadan, bien sûr, ils le font avec une bonne intention, mais l'intention elle-même ne suffit pas. Quand tu as une bonne intention, la bonne intention ne rend pas le haram licite et ne rend pas l'innovation sunnah. Non, la bonne intention ne rend pas le haram licite et ne rend pas quelque chose qui n'est pas sunnah, et ne rend pas sunnah malgré la bonne intention. Il faut quoi? Il faut le shra', pas seulement, il faut le ilm. C'est pas seulement la mauvaise, c'est pas seulement la bonne intention. Il faut aussi le shra'. C'est pour ça que on doit dire quoi? Ati Muhammadan al-wasila. Regardez pour que vous soyez plus sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il apprenait, je crois, Abdullah ibn Omar, il lui apprenait un dua. Il lui dit, tu dis dans ce dua, amantu, wa bi kitabika amantu bi. Amantu bi, il lui a dit, tu dis amantu bi rasulik, pardon, bi nabiyik wa bi kitabik alladhi anzalt, à peu près en ce sens. Amantu, tu dois dire amantu bi nabiyik wa bi kitabik alladhi anzalt. Ça dit Abdullah ibn Omar, au lieu de dire amantu bi nabiyik, il a dit amantu bi rasulik. Quelle est la différence entre rasul et nabi? Peut-être rasul c'est mieux que nabi, ça. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a corrigé. Il lui a dit non, ne dis pas rasoulik, dis nabiyik. Subhanallah, la rien. Non, regarde, il n'y a pas de différence entre la rasoul et nabi. On a montré quelle est la différence, bien sûr. Mais, avec une bonne intention, il n'y a pas de différence. Moi, je préfère dire rasoul. Le prophète, lui a corrigé. Il lui a dit non, ne dis pas rasoul, dis nabi. Subhanallah, la rien. C'est la même chose. Ati Muhammad al-Wasila. On dit Muhammad, et c'est pas Sayyidana Muhammad. On dit Muhammad al-Wasila ou Fadila. Et ça s'arrête ici. On dit وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. On ne dit pas comme disent aussi d'autres qui ajoutent إنك لا تخلف الميعاد. On doit s'arrêter ici. C'est Muhammad al-Wasilata ou Fadilata. Et on ne doit pas ajouter إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ. Maintenant, si quelqu'un me dit, pourtant il y a des gens qui sont ulama comme Ibn Baz, Hafidahullah, Allah yarhamu, Rahimahullah, il disait ça. Je crois que même Ibn Uthaymeen dit ça. On leur dit, Masha'Allah, qui a dit que ce ne sont pas des grands ulama? Masha'Allah, ils sont sur nos yeux et sur nos têtes. Si on était un angle dans leurs orteils, ça aurait été pour nous un grand mérite. On ne peut pas même pas être un angle dans l'orteil de Cheikh Ibn Baz. Mais le dalil avant tout. Maintenant, quand Cheikh Ibn Baz, il dit, c'est de la sunna dans le hadith, il y a un hadith qui dit, à la fin, innaka la tukhliful mi'ad. Et qu'il y a quelqu'un, le Cheikh Al-Albani, qui a passé 70 ou 80 ans dans sa vie, à chercher seulement les hadiths. Et il dit non, il n'y a pas ce hadith, il est vaïf. De qui tu vas prendre? Les deux, ce sont des grands ulama. Mais un des deux a une spécialité que l'autre n'a pas. Ici, c'est une question de hadith. Ici, on voit celui qui connaît le hadith et a étudié le hadith plus que l'autre. Ici, tu demandes à Cheikh Ibn Baz qui a étudié plus, il va te dire Cheikh Al-Albani a étudié beaucoup plus que moi les hadiths. D'ailleurs, c'est lui qui disait, il n'y a pas au-dessus de ce ciel, en notre temps, quelqu'un qui connaît les hadiths plus que l'Albani. Et Cheikh Ibn Baz qui a dit ça. Donc ici, Cheikh Al-Albani a dit cette ziyada que les gens ajoutent, innaka la tukhliful mi'ad, il a dit c'est daif. Donc, nous, inshallah ta'ala, on ne dit pas innaka la tukhliful mi'ad. On dit, ati Muhammad al-Wasilata al-Fadilata. نعم أتي محمد وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته on s'arrête là بإذن الله تعالى on s'arrête là pour le أذان on s'arrête là inshallah pour le درس on s'arrête là inshallah il reste beaucoup de choses à dire inshallah pour la prochaine fois on se rencontre inshallah dans 10 minutes un quart d'heure سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصوت إن شاء الله نعم إن شاء الله تعالى نعم نبدأ بإذن الله عز وجل حياكم الله جميعا ونقوم إن شاء الله تعالى نكستيون les questions qui sont dans mon courrier إن شاء الله تعالى je réponds chaque jour à ce que je peux les autres إن شاء الله تعالى dans le prochain درس vendredi je vais commencer par répondre à ceux auxquels je n'ai pas répondu إن شاء الله تعالى تفضل إن شاء الله سؤال الأول تفضل Est-il interdit de parler lorsque le mu'adhan fait l'adhan ou l'iqama? J'avais dit qu'il n'était pas interdit de parler. J'avais dit que les sahaba parlaient. Et j'avais dit que, d'après Cheikh Al-Albani, suivre le adhan n'est pas une obligation. Il a donné deux dalils. Il a donné deux dalils que suivre, c'était seulement une sunnah. Et que celui qui ne suit pas, il peut ne pas suivre. Yani, ce n'est pas interdit. C'est pour ça que quand le adhan parle, et le adhan, on peut parler. La même chose pour la iqama. Et vous avez dit que lors de l'adhan, lorsque le mu'adhan dit Ashhadu an la ilaha illallah, on peut dire wa ana. Cela s'applique-t-il aussi à l'iqama? L'iqama, quand le mu'adhan fait l'iqama, on ne le suit pas. On ne le suit pas. Quand il dit Allahu Akbar, Ashhadu an, on ne dit pas comme a dit lui. Naam. Car ceux qui ont dit se sont basés sur le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit baina kulli adhanayn salat, il a dit entre tous les deux adhan il y a une salat. Ils ont dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'iqama, il l'a appelé adhan, et ils ont conclu puisqu'il l'a appelé adhan, donc on va dire aussi comme dit le celui qui fait l'iqama, on va suivre comme on suit le adhan. Ils ont conclu alors que cela n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand tu vois les sahaba, là, tu trouves pas qu'ils disaient après l'iqama. Ils ne disaient pas après l'iqama, ils disaient seulement après le adhan. Voilà, inshallah ta'ala, le plus juste. Naam. Parce que on doit aussi voir est-ce que les sahaba ont fait cette chose qu'on a compris, nous. Est-ce qu'ils l'ont fait? On trouve qu'ils ne disaient pas après l'iqama. Inshallah ta'ala. Deuxième question. une sœur demande. Assalamu alaikum wa rahmatullah, hayyakumullah. Quelle est la première prière que l'on doit effectuer du matin? Est-ce le sopf ou le fajr? Et comment on procède? Y a-t-il un horaire à respecter entre les deux prières? Comment faire pour la rattraper si involontairement le réveil fut tardif? Jazakumullah khayran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Quand on se lève et il est encore, inshallah ta'ala, le soleil ne s'est pas encore levé, on doit commencer par le fajr. Ensuite, on fait le sopf. Quand on fait la prière du fajr avec la première rak'at, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, et la deuxième rak'at, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Ensuite, on attend un peu. On attend un peu. Si on est, yani, dans l'heure, on s'est réveillé vraiment à l'heure, on attend un peu. On peut attendre jusqu'à un quart d'heure, 20 minutes. C'est pour ça que le fajr a dit, c'est pour ça que la sunna, c'est de la faire, yani, rapprocher du salat sobh. À peu près, on laisse entre salat al-fajr et salat sobh, à peu près, sans, le temps de lire 100 versets à peu près. Mais des fois, on n'a pas le temps. Des fois, à la mosquée, on en a fait vite. Ça, c'est pour ça que, des fois, c'est pas, car la sunna du fajr, la sunna, c'est de la faire à la maison et d'aller faire le salat sobh, la salat sobh à la mosquée. Maintenant, quand on se réveille à l'heure. Mais des fois, on se réveille, on a peur que le soleil va se lever. Si on a peur du lever du soleil, qui est le signe de la fin de salat sobh, dans ce cas c'est grave, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, on doit commencer par quoi? On doit commencer par salat sobh, afin que le soleil ne se lève pas. Et ensuite, on laisse, quand le soleil se lève bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait salat al-fajr. Il y a aussi autre chose, des fois quand on se lève, par exemple on va à la mosquée, on n'a pas encore fait salat al-fajr et on trouve les gens, ils ont fait déjà la prière du sobh. On peut, juste après salat sobh, on peut faire la prière du fajr. La sunna du fajr, on peut la rattraper juste après la salat sobh, à condition qu'il fasse encore nuit. C'est encore nuit, je peux faire la salat al-fajr directement après salat sobh. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je la laisse jusqu'à ce que le soleil se lève bien, vers 8h ou 9h ou là, et je la fais bi'idnillahi ta'ala. Prochain soir, inshallah. Est-ce qu'il fait partie de la sunna d'utiliser les règles du tajwid pour l'adhan? L'adhan, on doit le faire le plus normalement du monde, bi'idnillahi azzawajal. On doit avoir un gosier assez fort, un souffle assez fort. Et maintenant, pourquoi qu'on fait des règles? On fait des règles pour que ce quelqu'un ne se trompe pas. Par exemple, il ne va pas dire prophète. Il n'a pas dit. Pour dire que Mohammed est un prophète, il faut que tu dises avec O. Shahadouana Mohammedan Rasoulou. L'O. Khabar. Khabar. C'est un khabar. Tu dis, j'atteste qu'il est prophète. Si tu dis Shahadouana Mohammedan Rasoulou, tu n'as pas encore dit qu'il est un prophète. C'est pour ça qu'on a besoin des règles. Du tajwid, c'est pas pour faire le tajwid, c'est pour connaître ce qui est faux, ce qui se dit, ce qui se dit pas. On dit pas shahado anna la ilah, anna la. On attache shahado alla direct, shahado alla ilaha illallah, shahado alla direct. On dit pas shahado anna la ilaha illallah. C'est pour cela qu'on doit connaître certaines règles, mais on n'est pas obligé d'apprendre des règles de yani, comme on lit le Coran avec l'ahkam et ceci. Là, ça, c'est pas obligé. On doit avoir une voix assez belle, un gosier puissant, un souffle, masha'Allah, et surtout l'intention d'avoir le ajr yawm al-qiyama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Prochain soual, inshallah. Est-ce que l'or du adhan à la mosquée est le même que celui de la radio ou du net pour les règles et devoirs? Devons-nous monter le son, même si nos voisins ne sont pas des musulmans? J'ai pas compris comment devons-nous monter le son. Bon, je réponds d'après ce que je comprends, inshallah ta'ala. Est-ce que lors du adhan à la mosquée est le même que celui de la radio ou du net pour les règles et devoirs? Le adhan, c'est lorsque tu l'entends de la mosquée. lorsque tu l'entends de la mosquée, et ce n'est pas lorsque tu l'entends de la télévision ou de la radio. Car quand tu entends celui de la mosquée, si tu es un homme, tu dois aller faire la prière à cette mosquée où tu l'as entendu, si elle est proche de toi. C'est-à-dire s'il a fait le adhan pas avec un microphone. S'il le fait avec un microphone, il peut, son son peut arriver jusqu'à des kilomètres. Mais si tu l'entends, s'il n'avait pas de microphone, tu l'aurais entendu, c'est-à-dire qu'il n'est pas loin, 200, 300 mètres, tu dois aller faire la prière là-bas et tu suis avec le adhan. Quand il dit Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar comme lui. Shadun la ilaha illa, shadun la ilaha. Et celui de la radio, là, de la télévision, là, on n'est pas obligé de le suivre car ce n'est pas celui qui est en train de nous appeler pour faire la prière. Celui-là, il nous dit seulement que c'est l'heure de la prière. Mais il ne nous appelle pas à la mosquée pour aller faire la prière. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Et en toute façon, suivre le adhan n'est pas une obligation. Naam Sheikh bin Rathimin Rahmo a dit, suivre le adhan n'est pas une obligation bi'idna azza wa jalla. Tafadhal inshallah, prochain sourat. Salam alaykoum Sheikh. Al-Ifta dans une fatwa, Cheikh Al-Albani dans un livre sur le adhan dit que l'on répète l'invocation après le iqama en argumentant par le hadith. Vous avez dit Naam, صح, Cheikh Al-Albani a dit ça. Ousmak, je ne sais pas bon qui a dit cela. Je voudrais dire à ceux qui m'entendent que moi je suis le genre, je suis tous les ulamas, tous les grands ulamas qui sont de la sunna, qui sont de connus pour être confiants, tous, je prends deux. Je n'ai pas quelqu'un spécialement à ta'assab là où je dis seulement celui-là et je ne prends pas. Je prends de tous les ulamas et surtout de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim et de ceux-là, surtout de Cheikh l'Albani, l'Arhmo, Cheikh ibn al-Taymin, surtout ces deux-là. Mais jamais je ne prends de quelqu'un qui ne me donne pas un délit. Jamais je ne prends de quelqu'un qui ne me donne pas un délit. Je donne un exemple très, très simple. La plupart de ce que je dis, vous avez remarqué, je dis Cheikh ibn Uthaymin a dit. Cheikh ibn Uthaymin a dit que la femme, quand elle rentre au prétendant, elle peut montrer ses cheveux. Moi je dis non, elle ne montre pas ses cheveux. Pourtant je n'ai pas son haine. Que suis-je moi devant Cheikh ibn Uthaymin l'Armo? Mais je ne prends pas. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas donné de délit, c'est tout. Être salafi, c'est prendre où est le délit. Montre-moi le délit, je le prends. Si quelqu'un ne me montre pas le délit, je ne prends pas sa parole. Pourquoi? Parce que ça devient un ijtihad, c'est tout. Moi, quand j'ai un délit, jamais je le lâche. Avali bin Nawajid, je le mets entre mes dents et je tiens en lui jusqu'à ce que je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. L'Albani, c'est lui qui a dit on répète après l'Iqama. Naam, mais c'est pas un délit. Pourquoi? Parce que le fait qu'une chose soit appelée par le même nom, ça donne pas les mêmes devoirs et les mêmes droits. Ça donne pas les mêmes devoirs et les mêmes droits. Je vais te donner un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le Jumu'a l'Eid. Il a dit Hada yawmu 'Eid. Il a appelé le Jumu'a l'Eid. Donc est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appelé le Jumu'a l'Eid, est-ce que je vais lui donner les droits et les devoirs de l'Eid? Est-ce que quand je fais l'appel de la prière du Jumu'a, je fais pas l'adhan? Parce que l'adhan, il n'y a pas le jour de l'Eid. Est-ce que quand je termine le Jumu'a, je vais dire aux gens Taqabbalallahu minna wa minkum? Je vais dire parce que ça, certains compagnons de la faisaient. Et comme ça, je vais lui donner toutes les règles de l'Aïd. Je peux pas, quoi que ça s'appelle aussi l'Aïd. Et je ne suis pas aussi obligé je suis obligé de me laver, alors que l'Aïd, je ne suis pas obligé de me laver. Naam. L'Ikhtayashir, c'est des grands, comme ils savent en arabe. Naam. Ils ont dit que tu répètes après l'Iqama, ça? Est-ce que tu veux dire ou la. Je relis d'abord Salam alaykoum Cheikh al-Ifta dans une fatwa et Cheikh al-Albani dans une fatwa. Je ne sais pas, j'ai pas lu ce qu'ont dit le grand comité. Je n'ai pas lu. Naam, je n'ai pas lu ce qu'ils ont dit. Peut-être qu'ils ont dit on doit suivre l'Iqama, ça? Peut-être qu'ils ont dit, comme a dit Cheikh al-Albani. Moi je parle de Cheikh al-Albani. qui a dit cela, et j'ai dit que il n'y avait pas une preuve, parce que le fait que ça ait le même nom, ça donne pas les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le fait qu'une chose ait un même nom qu'une autre, ça ne donne pas les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est ça la règle. Donc, quand il y a quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On revient aux compagnons radiallahu ta'ala anhum et on cherche. Est-ce que eux, ou là, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un faisait la iqama, il répétait avec lui? Et est-ce que les sahaba, quand ils entendaient l'iqama, ils répétaient avec lui? Quiconque peut donner un dalil qu'il répétait, je répète. Tant que je n'ai pas un dalil en ce sens, je ne répète pas avec lui, même s'il lui a donné le même nom. Parce que le fait de donner le même nom, ça n'implique pas obligatoirement les mêmes droits et les mêmes devoirs. Voilà la règle. Mais, celui qui veut répéter, il peut répéter. Pourquoi? S'il y a le grand comité des savants qui ont dit cela, tu peux répéter. Seulement, moi, personnellement, je ne suis pas convaincu, c'est tout. Mais je ne dis pas à celui qui répète, pourquoi tu répètes? Celui qui veut répéter, je le laisse répéter. Celui qui me dit, toi, est-ce que tu répètes? Je lui dis, moi, je ne répète pas, je ne suis pas convaincu, c'est tout. Naam. Fadlal, inshallah, prochain soir. Dans un pays non musulman, le matin, rappelle la prière est mieux que le sommeil. Salat khair minnum, on doit le dire ou pas? Et qu'est-ce que la prière d'Allah, si vous pouvez, j'ai pas compris la première question. Dans un pays musulman, le matin, l'appel de la prière, c'est écrit faux, hein. C'est écrit deux fois la prière, ensuite le matin c'est écrit avant la prière, non, c'est écrit faux, alors. La prière est mieux que le sommeil. Ça serait non. Que doit-on? On doit le dire ou pas? J'ai dit, je réponds d'après ce que j'ai compris. J'ai dit que on dit salat au khair min nom dans le premier Adam, pas dans le deuxième. Dans le premier Adam, il dit salat au khair min nom. Non, c'est pas dans le deuxième. Et nous, on dit comme le mu'adhan, on dit salat au khair min nom. On dit pas la hawla ou la quwwata illa billah. On dit salatu khairun min nawm. Naam, quand il dit salatu khairun min nawm, on dit comme lui. On dit salatu khairun min nawm. Naam. Il y a quelqu'un qui a entendu le adhan dire salatu khairun min nawm. Cette personne, c'est pas la peine que je dise ça. Il vaut mieux que je dise pas ça. Très bien. Je saute celle-là et comme a dit Cheikh Ben Baz, il a dit dans ces choses-là, il vaut mieux être sérieux. Je dis pas cela. Autre chose, qu'est-ce que la prière d'Allah sur le prophète ou bien sur les humains? Naam, la prière d'Allah sur les humains ou les prophètes, la même chose, c'est quand il cite la personne devant les anges et il dit ses mérites. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, huwa salatullah ala al-ibad. هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. نعم. الله سبحانه وتعالى quand on dit الله سبحانه وتعالى fait la prière sur quelqu'un, ça veut dire il le cite avec ses mérites devant les anges. Il dit ma personne a dit mon serviteur X, il le cite avec les mérites, il est bien, il est ceci, il est cela. Ça c'est la salat d'Allah سبحانه وتعالى. Donc quiconque fait la prière dans le premier rang, Allah subhanahu wa ta'ala le cite devant les anges, subhanallah al-azim, et il cite ses mérites. Masha'Allah, la salat dans le premier rang. Na'am, masha'Allah. Fadla, inshallah, prochain sourate. Salam alaikum, alaikum salam wa rahmatullah. Est-ce que l'adhan et l'iqama sont obligatoires pour la femme, qu'elle prie seule ou en groupe? Ou bien est-ce que c'est préférable ou non pour la femme de faire l'adhan et l'iqama? Est-ce qu'on a droit de prolonger le mot Allah plus de deux temps, sachant qu'il y a un mètre qabiaï? En ce qui concerne le adhan et l'iqama pour la femme, ce n'est pas obligatoire. Mais l'iqama, elle est plus conseillée. Elle est beaucoup plus recommandée, l'iqama. C'est-à-dire au moins elle ne fait pas la prière sans faire de iqama. C'est-à-dire, il faut, Inch'Allah, c'est mieux qu'elle fasse la iqama. Et si elle ajoute aussi l'adhan, c'est faisable. Si elle fait aussi le adhan, c'est faisable. Mais on n'est pas arrivé à ce dars, je crois, inshallah ta'ala, que c'est dans le prochain dars. Que la femme aussi peut faire le adhan et que la ikhama l'a fait, ça c'est mieux. Parce qu'il y a des ulama, je crois que même Cheikh Ibn Baz Rahmoud dit qu'il ne fait ni adhan ni ikhama, je crois. Je n'ai pas oublié. Cheikh Al-Albani l'a dit qu'elle peut faire le adhan. Et il s'est basé sur le hadith de Abdullah ibn Omar. Radiallahu ta'ala anhu. Est-ce qu'il n'y a pas de son? Est-ce qu'il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son, dites-moi. Il y a du son. Il y a, peut-être toi tu as un problème. C'est pour ça que j'ai dit ne faites pas cela jusqu'à ce que vous soyez sûr. Je disais que, Inch'Allah ta'ala, la femme peut faire le adhan. Peut faire le adhan et fait la ikhama qui est plus conseillé que le adhan. Mais elle peut faire le adhan bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Albani s'est basé sur le hadith de Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu. Quand on lui a, il est dans le sila sahiha. Quand quelqu'un lui a dit, est-ce que la femme fait le adhan? Il a dit, amna'ha min dhikrillah, amna'ha min dhikrillah. Est-ce que je lui ai interdit dhikrallah? Est-ce que je lui ai interdit dhikrallah? Ça veut dire que la femme faisait le adhan. Et Ibn Taymiyyah, Allah yarhamu, dans son Majmou' al-Fatawa, a dit que Ahmed ibn Hanbal, alayhi rahmatullah, l'imam d'Al-Sunnah, a permis à la femme de guider les gens dans la prière, dans Salat Tarawih, s'ils sont dans une petite ville où il n'y a personne des hommes qui apprend le Coran. Ça c'est un peu bizarre, mais ça existe dans le madhab de Ahmed al-Rahmatullah, la cité Cheikh Ibn Taymiyyah, et je crois que la cité même aussi al-Wasmu, Cheikh Al-Albani dans Sisla Sahiha. Il a dit que c'est Ahmed al-Rahmatullah qui a dit cela, et aussi Tabari, l'imam Tabari, le grand qui a expliqué le Coran, c'est aussi son madhab. Il a dit une femme, quand ils sont dans une petite ville, ou dans une mosquée, où il n'y a pas un homme qui connaît le Coran par cœur, tout le Coran, et il y a une femme, si elle le connaît par cœur, elle peut guider les gens dans Salat Tarawih. Ils mettent un rideau entre les hommes et les femmes, et elle les guide. Et ça, bien sûr, c'est un peu drôle et un peu bizarre. Ce sont des choses qu'il faut connaître seulement, mais ne pas appliquer. Une chose comme celle-là, tu la connais, non, elle se met avant et il y a une barrière. Il y a une barrière entre elle et eux. Elle met un rideau, par exemple. C'est comme si... Pour qu'il ne la voit pas. J'ai dit que des choses pareilles, on les connaît juste pour le haïn, mais pas pour les appliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un, par exemple, il veut faire le djidel avec moi ou là, tu lui dis, est-ce que cette chose, c'est quelqu'un qui l'a inventé? Cette chose-là dit déjà l'imam Ahmed. Il l'a dit l'imam Tabari. Et ça se trouve dans le Fatawa Cheikh Islam. Pas quelque chose, juste donc pour avoir le haine. Mais en application, on ne l'a fait pas. Pourquoi? Pour deux ou trois choses. Premièrement, les compagnons du prophète, les femmes, n'ont jamais fait la prière et n'ont guidé un homme. Deuxièmement, ça va nous pousser à ouvrir une grande porte de l'innovation, comme a fait la femme aux États-Unis qui a fait le prêche du vendredi. Elle a loué, vous savez qu'elle a loué une église. Elle a fait la salle du vendredi au Canada. La salle du vendredi, elle l'a faite dans une église. Non, elle a loué une église pour le vendredi. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Troisièmement, il y a autre chose aussi. Non, troisièmement, salat tarawih, c'est pas obligé, je suis pas obligé de lire tout le Coran. Salat tarawih, on va lire seulement ce qu'on peut. Aujourd'hui, moi je fais la prière avec ce que je sais, demain toi avec les sourates que tu sais, le troisième jour X, le quatrième jour on ne fait pas la prière. Pourquoi? Le tarawih, on est obligé de faire un mois. On ne fait pas un mois, on fait 10 jours, on fait 15 jours, on fait un jour oui, un jour non. Pas obligé de faire un mois, mais pas obligé de lire tout le Coran. Certains gens croient que si tu lis pas tout le Coran pendant le tarawih, c'est pas tarawih. Tout le Coran, jusqu'à ce que tu aies les pieds qui veulent tu veux tomber. Mais allez, il faut lire tout le Coran. Je ne suis pas obligé de lire tout le Coran. Je lis seulement
une partie, pourquoi je lis tout le corps. Ensuite, autre chose, supposons que khlas, on doit lire tout le corps. Et on va lire tout le corps. On n'a pas trouvé quelqu'un qui apprend tout le corps. On prend le livre et on lit. On prend le livre, on le pose devant nous et on lit. Pourquoi ? Parce que c'est une nafila. Et dans la nafila, Aïcha radiallahu ta'ala anha, comme c'est dans le hadith Sahih Bukhari, avait demandé à son esclave de la guider avec quoi ? Avec le, en prenant le Coran et en lisant du Coran, le hadith est dans le Bukhari. Son esclave s'appelait Dukwan. Il faisait la prière en lisant du Coran. Donc, on peut lire, Inch'Allah ta'ala, du Coran. Inch'Allah, j'ai répondu aux questions. Tfadla, Inch'Allah, prochaine question. Wa alaykoum salam, wa rahmatullah wa barakatuh. Si on arrive en retard dans une salat et que l'imam a déjà fait rukou et qu'on commet une erreur telle qu'un majou. Exemple, j'arrive en retard alors que l'imam s'est relevé du sujoud et je commence le teshahhud alors que lui fait sa deuxième prosternation. Dois-je faire une prosternation distraction ou non, sachant que cette erreur est arrivée alors que je suis arrivé après rukou et que donc cette rak'at ne m'est pas comptée. Je dois relire, Inch'Allah. Pour comprendre, j'ai pas compris. Quand on arrive en retard dans une salat, c'est que l'imam a déjà fait le rukou. Naam. Et que l'on commet une erreur, c'est qu'un rajout. Exemple. J'arrive en retard, que l'imam s'est relevé du sujoud. Je vais en parler du rukou, maintenant on est dans le sujoud. J'arrive en retard alors que l'imam s'est relevé du sujoud. Et je commence le teshahhud alors que lui fait sa deuxième protestation. Prosternation, naam. Dois-je faire une prosternation, une distraction ou non? Naam, tu fais pas, naam, tu ne fais pas une prosternation de distraction. Pourquoi? Parce que quand on est derrière l'imam et on se trompe, on marche pas avec lui, qu'est-ce qu'on fait? On doit le suivre très vite. Yanné, je donne un exemple. Par exemple, l'imam. Je suis incliné avec lui. Je suis incliné. Ensuite, lui, il a levé la tête. Il a dit, Sami Allah li Muhammadin, je ne l'ai pas vu. Ensuite, il est descendu, il est dans le soudoud. Et moi, je suis toujours incliné, par exemple. Ensuite, je vois, par exemple, lui-même qu'il est dans le soudoud. Qu'est-ce que je fais? Je me lève vite, je dis, Sami Allah li Muhammadin, et je le suis où il est. Lui-même. Quand on décale avec lui, qu'est-ce qu'on fait? On doit vite suivre, yani rattraper ce qui est passé et le suivre et continuer avec lui sans faire de prosternation, de distraction. Bi-idhnillah azza wa jal. Naam. Fadlan, inshallah, prochain soual. Quand on fait l'adhan seul pour soi-même et que ça devient obligé de répéter une deuxième fois, comme pour celui qui l'entend, l'adhan, c'est qu'il doit le répéter après l'adhan. Ou vous aurez peut-être le doua à dire celle qui efface tous les péchés. Ça devient obligé de répéter une deuxième fois, comme pour celui qui entend l'adhan et qui doit répéter après l'adhan. Pouvez-vous répéter le doua à dire celui qui efface tous les péchés? Tu ne me rappelles pas, mais je vais voir dans le livre, mais je n'ai pas très bien compris ce que veut dire la sœur ici. Je n'ai pas très bien compris. S'il y a quelqu'un qui peut me faire comprendre, il me fait comprendre. Doit après la salat. Non, elle parle du doit après le adhan. Justement, il ne parle pas de la salat, il parle du adhan. Non, il parle du adhan. Le fait de répéter après le mot adhan, dit la sœur. Elle parle de celui qui annule les péchés. C'est celui où j'ai dit que s'il. Il n'y a pas quelque chose qui l'entend, ni un arbre, ni un rocher, ni là, que sans qu'il lui fasse des doigts. C'est le rocher, etc., qui demande à l'Allah de te pardonner. pas toi. Je ne connais pas un doigt à étudier ici. Non. Donc, j'ai pas bien compris ce que veut l'Afouda la sœur. Et puisque j'ai pas compris, pour ne pas perdre de temps, Inch'Allah Ta'ala, on sort à la prochaine question. Inch'Allah. Devons-nous faire l'adhan en ayant l'audo? Quelles sont les formes possibles pour faire l'Iqama? Nombre de fois, vous avez dit que nous ne devons pas répéter l'Iqama. Est-ce identique pour la Dua? Pour la Dua ou la Duha? Je n'ai pas compris ici. Duha ou la Dua? Dua. Non. Quelles sont les formes possibles pour faire l'Iqama? Non. L'Iqama, Inch'Allah Ta'ala, c'est dans le prochain dars. L'Iqama, Inch'Allah Ta'ala, on va la commencer à partir du prochain dars. Mais l'Iqama, il y a deux sortes, ou bien on ne dit deux fois que le début est Qad Qamat Salat. On dit comme ça, Allahu Akbar, seulement deux fois. Ensuite, toute une fois, Shahadun La ilaha illallah, Shahadun Muhammad Rasulullah, Haya Salat, Haya Al-Falah. Une fois. Ici on dit deux fois. Qad qamat salat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ou bien on dit tout deux fois. Allahu Akbar, shahadun la ilaha illallah, shahadun la ilaha illallah, shahadun Muhammadan Rasulullah, haya salat, haya al-falah. Qad qamat salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ça donne 15. Naam, tu choisis. Des fois tu fais celle-là, des fois tu fais l'autre, bi'idhnillah azza wa jalla. Toutes les deux. Les deux sortes sont, Inch'Allah Ta'ala, valables. Naam. Ensuite, elle a dit, est-ce identique pour le doua? Quel doua? Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce identique pour le doua? Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire cette phrase. Est-ce identique pour le doua? Quel doua? Après le adhan, on dit doua. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa tamma wa salat qa'ima. Après l'iqama, on ne dit pas. Après l'iqama, on ne dit pas. Si on répète pas, on dit pas. Maintenant, si vous êtes de ceux qui sont convaincus qu'on répète après, donc on est obligé aussi de faire le doigt. Si vous prenez ceux qui disent on répète pas après la ikhama, donc il n'y a pas aussi de doigt. Naam. Fadal Inch'Allah, prochain soir. Naam. Une question dit ici en arabe. Ida adhantu li wahdi, hal yajibu aliyya an ukarrir ma aquluhu. كما يفعل من يسمع للأذان. نعم. Quand quelqu'un يعني répète, il fait l'adhan à lui-même pour faire la prière, il ne répète pas. Il ne répète pas comme quelqu'un qui entend le adhan. Non, il dit seulement le adhan. Seulement le adhan. Il dit shahadun la ilaha illallah, shahadun, et comme ça. Seulement, sans ajouter, يعني comme si quelqu'un m'entendait. Non, je fais seulement le adhan normalement. Le Cheikh Al-Albani a dit, voilà aussi, c'est un avantage. Il a dit, quand on termine le adhan, on dit par exemple, Shahadun la ilaha illallah, à la fin on dit Allahu Akbar, la ilaha illallah. Il a dit, celui qui fait l'adhan, il ne fait pas le dua. Il ne dit pas, la ilaha illallah, Shahadun Muhammad Rasulullah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa at-tamma, wa salat qa'imati Muhammadun al-wasila wal-fadila, wa ba'athu maqam Mahmoudin alladhi wa'adtah. Il a dit, le mu'adhan ne dit pas cela. Il a dit, parce que le hadith a dit, si vous entendez le mu'adhan, dites. Il a dit, celui-là, il est en train de faire le adhan aux gens. Lui, il ne dit pas. Il ne dit pas le dua Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa tamma salat wa salat qa'ima. Il a dit, seulement ceux qui l'entendent disent le dua. Donc, quelqu'un qui fait le adhan, c'est pas la peine de dire le dua, Inch'Allah Ta'ala. Une autre question. Est-ce que. L'autre question. Est-ce que vous pouvez rappeler le hadith où il faut éviter de mal prononcer le nom d'Allah durant le adhan? J'avais dit que Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, quelqu'un lui a dit je t'aime en Allah. Il lui a dit, quant à moi, je te déteste en Allah. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit Tulhin fil adhan. Tulhin. Wa ta'khudu alayhi ajran. Tulhin, c'est premièrement, tu te trompes dans l'adhan. Tu te trompes, tu dis, tu ajoutes des lettres et ça, Ici aussi, ça s'appelle tilhin quand on fait le prolongement et comme ça. Ça aussi, ça rentre dans le tilhin parce que tu as ajouté place maudite, psalm maudit. Parce que tu as ajouté quoi? Tu as ajouté des huruf. Tu as ajouté des lettres. C'est pour ça que le vrai Adam, c'est celui qui est naturel. C'est pas certains Adam, tu les entends, tu crois que c'est une chanson. Il dit celui-là, c'est une chanson, il est en train de chanter, il n'est pas en train de faire le Adam celui-là. Non. Plus il est naturel, plus il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Saddam, inshallah. Parce qu'en fin de compte, le Adam, c'est juste pour dire que c'est l'heure de la prière. Et ce n'est pas pour, yani, pour attirer le pour que les gens nous disent Mashallah, tu as une belle voix. Naam, est-il permis de faire des doigts à la fin de la salat en levant les mains au niveau de notre poitrine? À quel moment sinon? Et lorsqu'on se lève du soujoud, doit-on se relever avec les poings fermés? Naam, pour faire il est permis de faire des doigts à la fin de la salat. À la fin de la salat, bon, c'est pas l'adhan, hein? À la fin de la salat, en levant les mains au niveau de notre poitrine, à quel moment sinon? Et lorsqu'on se lève du sujet, doit-on se relever avec son terme. En ce qui concerne les doigts, en ce qui concerne les doigts, après la salat, ce n'est pas une sunnah. Ce n'est pas une sunnah que, quand on termine la salat, on dit salam alaykum salam, et on commence à faire les doigts. Ce n'est pas une sunnah. Mais, si quelqu'un veut faire un doigt après la salat, à cause d'une chose qu'il s'est souvenu par exemple, ou bien il a senti quelque chose dans son cœur et il veut faire les doigts, il peut. On m'a dit Ibn al-Qayyim, mais tous les ulama ont dit cela. Ils ont dit la différence ici, c'est que tu as fait un doigt parce que par exemple tu t'es rappelé une chose, par exemple tu t'es rappelé que ton père était malade, tu as levé les mains et tu as fait les doigts. Mais ça rentre dans la bid'a quand quoi? Quand on croit, ou là on fait croire aux gens, que après qu'on termine la salat, on doit faire les doigts. On doit lever les mains et faire les doigts. Ça rentre dans la bid'a. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il terminait la salat, il disait Astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabaraka al-jalal wal-ikram. Il disait La ilaha illallah wa la sharika lah. Il disait un peu de doigts. Ensuite, il commençait à faire le tasbih. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ensuite il lisait ayat al-kursi, des fois il disait qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, des fois il disait qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, salat as-subh et le maghrib. Mais il faisait pas de doua ni ne levait les mains. Donc si on va dire aux gens que c'est de la sunna de faire les doua et lever les mains dans la salat après la salat tous les jours, ça devient une bid'a. Ensuite même logiquement, déjà premièrement la sunna, le prophète alayhi salam n'a pas fait cela. Deuxièmement logiquement, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de la salat, il a dit tahrimuha takbir, quand tu dis Allahu Akbar tahrimuha, c'est haram de parler ou là de rire ou l'akhlas, tu es dans la salat. Wa tahliluha taslim, et quand tu dis salam alaykum, c'est halal, tu peux parler, tu peux rire, tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi? Parce que quand tu dis Allahu Akbar, tu es rentré, tu as commencé à parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis que tu as dit Allahu Akbar, Allah azza wa jalla va mettre son visage, son beau visage, en face de ton visage, et tu vas lui parler. Tu vas lui demander des choses, c'est surtout dans le sujoud. Quand tu fais le sujoud, tu vas demander à Allah des choses, etc. Alors, maintenant, quand tu as terminé la salat, tu dis salam alaikum, tout est terminé, tu vas faire des doigts et demander à Allah subhanahu wa ta'ala des choses. Subhanallah l'adim. Tu as laissé les meilleurs moments, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aqrab ma yakunu l'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Il a dit, si vous voulez être vraiment, quand vous faites le sujoud, vous êtes vraiment, vraiment près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, faites les doigts quand vous êtes près d'Allah. Maintenant, les gens, quand ils sont dans le sujoud, ils font pas de doigts. Ils vont très vite. Stop, et ils se lèvent. Et quand ils terminent, où il n'y a pas de doua, il commence à lever les mains et faire les doigts. C'est à peu près pour vous compreniez encore plus. C'est comme lorsque je parle, j'ai besoin de mon père pour me donner de l'argent ou là, je prends le téléphone, je lui téléphone. Quand le combiné est levé, je lui dis rien. Seulement, comment vas-tu ou là, quelque chose. Ensuite, quand je raccroche, là, j'ai posé le combiné, je dis à mon père, donne-moi de l'argent ou là, aide-moi ou là. Mon père, là, il est loin, là. Maintenant, là, subhanahu wa ta'ala, quand tu étais avec lui, en faisant le sujoud, tu n'as rien demandé. Et maintenant, tu as terminé la salat en disant salam alaykum, tu vas commencer à faire les doigts. Donc, faire les doigts après la salat, en levant les mains, n'est pas de la sunnah. Mais, ici, je dis bien mais. Mais si jamais tu lèves les mains, tu fais un doigt, parce que tu t'es rappelé une chose, ou là, parce que tu as senti quelque chose dans ton cœur, sans le faire souvent, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Parce que, ici, tu as fait le doigt, c'est pas parce que tu es derrière la salat. C'est à cause que, yani, il s'est passé quelque chose. Yani, tu veux faire un doigt, ça veut dire que j'aurais pu ne pas le faire maintenant après la salat, j'aurais pu le faire à la maison, ou chez le boulanger, ou là, n'importe où, j'aurais pu lever mes mains et faire le doigt. Mais maintenant, j'ai senti quelque chose en mon cœur, je l'ai fait maintenant, c'est tout. Mais ça, il n'a rien à voir avec la salat. Dans ce cas, c'est possible de faire un doigt, mais de ne pas le faire souvent, bien sûr. Quant aux mains, quand on fait un doigt, beaucoup de gens croient qu'on ouvre les mains comme ça. Certains gens ouvrent comme ça, yani, leurs mains, au point, par exemple, de voir, par exemple, leurs aisselles, ce qu'il y a sur leurs aisselles. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait comme ça, ça s'appelle « dua al-ibtihal ». C'est comme l'istisqa, lorsqu'il demandait la pluie, il levait les mains comme ça. Mais dans un dua mas'ala, dua où tu vas demander la subhanahu wa ta'ala des choses, tu ne lèves pas les mains comme ça. Tu joins les deux mains ouvertes, tu les joins l'une à l'autre, elles se touchent. Ensuite, tu les mets comme ça, yani devant ton visage. Tu les mets devant ton visage. Devant ton visage, comme si. Tu lisais un livre devant toi et tu as les deux coudes, les coudes, tes bras et les coudes qui touchent sur tes flancs. Regarde, essaye de mettre tes coudes sur les flancs à droite et à gauche et les deux mains fermées comme ça et tu les rapproches de ta bouche et tu fais des doigts. C'est comme ça qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou. Ça va, inshallah, prochain soir. Dua al-istiftah, subhanak lahumma bihamdik. On doit le dire aux prières obligatoires, ou alors on doit le dire même pour les nawafil. On dit subhanak lahumma bihamdik, shahadun la ilaha illa, pardon, subhanak lahumma bihamdik, tabaraka smuk wa ta'alajduk wa la ilaha ghayruk. Naam, comment on peut dire autre chose? On peut dire Allahu akbar kabira, alhamdulillah kathira, subhanallah bukratan wasila, et on peut dire aussi beaucoup d'autres choses. On peut le dire dans la nafila et dans la salat fard. Et au sujet des points fermés, naam, quand on se lève avec les points fermés. Quand on se lève du sujoud pour monter et pour se mettre droit, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, ce qu'on appelle, on fait 17 istiraha, on s'assoit un peu, ensuite on revient vers l'avant, on pose nos deux mains points fermés. C'est comme si les vieilles mères qui faisaient le pain autrefois, sur le pain devant toi, avec les poings fermés, on lui fait comme ça des choses avec les poings fermés. La même chose, tu poses tu poses tes poings fermés, et en t'appuyant sur tes poings, tu te relèves. Tu te relèves pas avec les mains ouvertes, mais on se relève avec les poings fermés, comme a bien montré ceci Cheikh Al-Albani dans son livre, dans son merveilleux livre, كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم prochain سؤال إن شاء الله تفضل. je ne sais pas أخت سلفية je ne sais pas والله je ne sais pas ce qu'elle veut la أخت. نعم je ne sais pas. تفضل إن شاء الله prochain سؤال. est-ce qu'une femme qui fait l'adhan chez elle aura la même récompense que le mu'adhan في الدنيا et le jour du jugement dernier? est-ce que la femme qui fait l'adhan chez elle aura la même récompense que le mu'adhan et le jour du jugement dernier? Wallahi, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Je sais que si elle fait le adhan, il lui est permis. Car la femme, comment dire le français, la femme, c'est comme l'homme. C'est comme l'homme exactement. Déjà, elle a été créée de l'homme. Il y a eu Adam alayhi salam, ensuite il y a eu Hawa. Elle a été créée de l'homme. Certains ont dit, c'est ça le sens du hadith. Et d'autres ont dit autre chose. Elle peut faire exactement comme l'homme dans la prière. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme dans la prière. C'est pour ça qu'elle peut faire le adhan comme lui. Et sûrement que quand elle fait le adhan, sûrement que Allah a ajr. Sûrement que Allah a ajr. Quel est son ajr exactement, je ne sais pas. Mais inshallah ta'ala, elle a ajr bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Fadal inshallah, prochain soual. J'ai une question sur le fait de poser les mains en premier quand on se prosterne. On m'a dit qu'il y avait deux avis. Moi, dans le livre de l'Albani, il dit que c'est interdit. Il donne la preuve avec le hadith. Mais on m'a dit qu'il y avait deuxième avis. Quel est votre avis? Deuxième avis, que l'autre avis ne l'interdisait pas. Naam. Il y a deux avis. Naam. Il y a deux avis. Cheikh l'Albani a dit on descend avec les mains. Et Cheikh Ibn al-Qayyim et Ibn Uthaymin et Ibn Baz alayhim rahmatullah jami'an disent on descend avec les genoux, on descend avec les genoux, on descend avec les genoux et pas avec les mains. Naam. Vous, inshallah ta'ala, vous essayez de lire et vous voyez où vous êtes convaincu, vous prenez. Moi personnellement, je suis convaincu qu'on descend avec les mains. Je prends de ce cas du Cheikh al-Albani. Moi toujours, quand deux ulamas se font divergent, je vois pourquoi ils divergent. Si c'est une question de hadith, à cause du hadith, je prends de l'avis de Cheikh al-Albani. Parce que je suis sûr qu'il est plus savant en ce qui concerne le hadith. D'ailleurs, eux-mêmes, les grands ulamas disent, c'est Cheikh Ibn Baz qui dit et les autres disent, puisque comme l'Albani dans le hadith, il n'y a pas en notre temps. En notre temps, comme l'Albani dans le hadith, il n'y a pas. C'est pourquoi je m'étonne beaucoup quand je vois des jeunes de 18-20 ans, ils écrivent quelques, ils connaissent de 10 ou 15 hadiths, ils écrivent comme ça des petits livres, yani risala, où ils corrigent à l'Albani. Il dit l'Albani a dit c'est daif, mais il s'est trompé, le hadith il est sahih, ou bien le contraire, l'Albani a dit sahih, il s'est trompé, le hadith est daif. Je dis la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Quelqu'un qui est resté 70 ou la 80 ans dans le hadith, quelqu'un qui a lu seulement à cause d'une feuille qu'il a perdu, il a lu 10 000 tomes ou là je ne sais pas combien, et bien quelqu'un, un petit jeune qui croit qu'il va lui corriger comme ça très facilement. Sah, Cheikh al-Albani n'est pas infaillible. C'est quelqu'un qui se trompe, il a des erreurs bien sûr, mais pas au point où je vais dire que je connais mieux que lui sa spécialité. Ça, il est impossible. Donc, Inch'Allah Ta'ala, vous voyez, vous lisez les dalils et vous voyez. Moi, j'ai lu le Sefer Salat al-Nabi, j'ai lu ce qu'a dit Cheikh Ibn al-Qayyim dans son livre La Salat, et j'ai été convaincu que de ce qu'a dit Cheikh al-Albani, que c'était plus vrai, qu'on descendait avec les mains, car il y a hadith qui dit que quoi, il dit et précède tes mains avant tes pieds, descends de tes mains avant que tu ne descendes avec tes genoux. Il dit il ne faut pas ressembler au chameau. Faut pas. Alors quand tu vois le chameau, tu vas voir le dictionnaire, il va te dire que ses pieds se trouvent dans ses mains. Le chameau, il a ses pieds qui se trouvent dans ses mains. Le chameau descend d'abord avec ses pieds, ensuite qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite il tend ses mains, il descend comme ça, comme si tu descendais toi avec tes coudes de la main, ensuite tu poses les mains comme ça par terre. C'est comme ça qu'il fait le chameau. Il descend d'abord avec les pieds, ensuite les mains. Et le hadith a dit, ne fais pas comme le chameau. Fais le contraire du chameau. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Fadal inshallah, prochain soual. Mais si tu descends avec tes pieds, inshallah ta'ala, c'est possible, d'après le deuxième avis. Dans un pays non musulman, Villa de Corse, dans l'appel à la prière, salat al-fajr le matin, est-ce qu'on doit dire salat al-fajr où on fait un adhan normal. J'ai appris auparavant que Sobh et Fajr avaient la même définition littéralement, avec des épreuves du verset au Sobh et Fajr avaient la même définition. Pouvez-vous être plus explicite sur ces deux mots littéralement? Pour le premier, j'ai pas bien compris. Dans un pays de coffre, payer de coffre ou pas payer de coffre, quand on peut faire le adhan, on peut faire les deux. Si on peut faire les deux, on les fait les deux. Naam. Mais quand tu fais dans la mosquée, qui va t'entendre? C'est ça le problème. Quand tu vas faire le premier pour dire salat khairun min noum, tu le dis à qui? Personne ne t'entend à l'extérieur parce que c'est interdit. C'est ça la mouchkila. Et le adhan, qui est avec lui, le disent les ulama, l'un des signes avec lequel on sait si on est entre musulmans ou là on est avec des kofars. Ce sont seulement les kofars qui ne font pas le adhan. Et si les musulmans décidaient et disaient on va plus faire le adhan, ceux-là doivent être tués, yani yuqatalun, jusqu'à ce qu'ils fassent le adhan bidnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le adhan et le subh, il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de hadiths où le subh et le fajr est aussi appelé subh. Naam. Le subh est appelé fajr, le fajr est appelé subh. Il y a beaucoup de hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par exemple, men salla al-bardain dakhal al-jannah, par exemple, subh ou l'asr. Et dans le Coran, par exemple, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Qur'an al-fajr, al-fajr c'est ici subh. Il veut parler de salat subh. En arabe, que tu dises subh ou bien tu dis fajr, c'est la même chose. C'est pour ça que ce qui est drôle, yani dans certains pays, ils ont pris l'habitude, par exemple, d'appeler cette chose comme ça. Soit tu vas dans ce pays, tu trouves que c'est le contraire. Par exemple, moi, quand je suis venu ici au Koweït, quand je leur dis al-fajr, je veux dire quoi? Je veux dire la sunna la sunna, celle qui se lit avec qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Je dis al-fajr. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, on a appris ça. Salat al-fajr et salat al-subh, c'est l'obligatoire. Maintenant, ici au Koweït, tu leur dis salat al-fajr, pour eux, c'est la salat al-subh, il n'y a pas de différence. Tu lui dis, par exemple, attends, je salle al-fajr, je te dis pourquoi je t'attends, attends, on va tous la faire ensemble. Ils croient que tu parles de salat al-subh. Maintenant, certains pays, yani, ils ont ce qu'on appelle l'arf, hein, ils ont donné une nomination spéciale, naam. Mais en vérité, si tu dis subh, tu dis fajr, les deux sont valables, et dans les deux, il y a beaucoup d'ahadith, et il y a même le verset que je viens de citer maintenant, inshallah ta'ala. Naam. C'est pour ça que il faut savoir faire la différence. Si tu veux dire al-fajr, il faut dire sunnat al-fajr, pour que les gens ne se trompent pas. Dis sunnat al-fajr, quand tu dis subh, c'est bien clair que c'est salat al-subh. Mais si tu dis sunnat al-fajr, c'est yani, pour permettre aux gens qu'ils se comprennent. Naam. Une sœur va s'installer pendant un certain temps dans la ville de Ost, sur Morbèche. Et là-bas, le soleil se lève à 9h du matin. Il se couche vers 15h de l'après-midi. Comment faire par rapport aux horaires? Doit-elle prier en fonction des horaires ou bien doit-elle prier en fonction d'un autre pays, en fonction des horaires de Oslo? Donc, prier le Fajr à 9h du matin et prier le Maghrib à 15h du soir. Ça m'a rappelé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du Messie Dajjal, de l'antéchrist, le faux messie. Il a dit quand il viendra, il va rester seulement 40 jours. Mais un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et tous les autres jours comme vos autres jours. Il leur a dit, ya Rasulallah, le jour qui sera comme une année, Comment qu'on va faire pour la salat? Regardez les sahaba, comment qu'ils pensent à leur dîn, et ils pensent beaucoup à leur salat qui est très importante. Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, tu dis que le Messie Dajjal, son premier jour, va rester une année. Comment qu'on va faire pour la salat? Il a dit, uqduru laha. Uqduru laha, ça veut dire, faites des calculs. Faites des calculs. Par exemple, quand vous faisiez salat subh, vous restiez par exemple 7 heures pour faire le dhar. Alors vous, quand vous faites salat sobh, restez à peu près 7 heures il fait le dhuhr. Ensuite, restez 3 heures, de 2 heures, il fait l'asr. Restez 2 heures, faites le maghreb. Restez 1 heure, faites l'isha. Restez 8 heures, faites le sotr. C'est comme ça. Uqduru laha. Naam. Parce que une journée qui n'en finit pas, comment on va faire? C'est impossible. C'est à peu près comme quelqu'un qui monterait sur la lune. La lune, il n'y a pas de soleil. Comment il va faire aussi? Celui-là, il va prendre à peu près. Il va prendre à peu près en 30 ans. Comment il faisait sa prière quand il était sur la terre. Maintenant, on ne peut pas, d'après ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas faire la prière du matin, du Fajr à 9h du matin. D'après ce que je comprends. Pourquoi ça s'appelle Salat Fajr? Il ne faut pas que le soleil soit levé. Si le soleil s'est levé, on n'est pas Salat Fajr. La même chose pour le jeûne, pour le Ramadan. Si maintenant le soleil s'est levé, il est en haut, celui-là, tu ne peux pas commencer le jeûne. Le jeûne, il faut qu'il commence avec le Fajr. Quand il y a avec la blancheur, on attend un peu, et maintenant, c'est le vrai Fajr est rentré, car il y a le faux, il y a le vrai. Mais si le soleil se lève, ça veut dire que la prière du matin est sortie. La prière du matin est sortie. C'est pour ça que la sœur, quand elle sera là-bas, elle demandera à ceux qui sont responsables des musulmans. Elle demandera là-bas, il y a dans chaque pays de Kof, il y a des musulmans là-bas et il y a leurs responsables. Donc, par exemple, elle demande, par exemple, l'ambassade d'un pays arabe, elle trouvera inshallah ta'ala une solution. Mais je suis sûr que ce n'est pas à 9h du matin qu'ils vont faire salat sop. Sauf si c'est 9h du matin dans un autre pays. Mais pas à 9h du matin d'Oslo. Sinon à 9h du matin, il y a le soleil, là, ce n'est pas salat sop. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dans ce cas, je dis et je répète, elle demandera là-bas aux musulmans. Elle demandera même aux responsables qui sont officiels. Inch'Allah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal akhi karim, tfaddal. Est-il exact que le prophète alayhi salatu wasalam n'a jamais fait l'adhan? Et cela est exact, pourquoi l'a-t-il jamais fait? Je ne connais pas un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'adhan. Non, je ne me rappelle pas qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'adhan. Non. Pourquoi ne l'a jamais? Pourquoi ne l'a-t-il jamais fait? Non, je ne sais pas pourquoi il ne l'a jamais fait. Je ne sais pas. Peut-être que. Yani, déjà le fait, vous connaissez la règle. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait quelque chose devant lui, et il consent, il ne dit pas cette chose est fausse, ça veut dire que bien sûr elle est vraie. Donc lui, quand il entend l'adhan, quand il l'entend, et il ne corrige pas quelqu'un, ça veut dire que son adhan est juste et il l'a fait. Yani, il l'a fait d'une façon juste. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accepte jamais devant lui qu'on fasse quelque chose de faux. On s'appelle la sunna taqririya, yani, par le consentement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, je ne sais pas exactement pourquoi il n'a jamais fait l'adhan, mais peut-être parce que il l'entendait des gens pour leur corriger, leur apprendre, etc. Mais est-ce que quand il était seul, il ne faisait pas aussi? Là, je ne crois pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un est rentré devant lui, il a commencé à faire la prière d'une façon fausse. Ça s'appelle le Moussi Ofi Salati. C'est une personne très connue, il s'appelle Khalid, quelque chose comme ça, j'ai oublié. Il lui a dit, Ta'ala, il lui a dit, répète ta salat. Il l'a répété, il l'a fait fausse. Il lui a dit, répète. Il l'a répété la troisième fois, il l'a fait fausse. Il lui a dit, répète. Il lui a dit, Ya Rasulallah, ma uhsinu illa hadi. Mais Ya Rasulallah, je ne connais que cette salat. En vérité, je suis franc. Je ne sais pas s'il y a une autre façon. Je ne connais pas. Parce qu'il ne faisait pas la prière avec concentration, avec khushu'. Le prophète Hassan lui a appris. Il lui a dit, écoute, quand tu veux faire la prière, et dans une version qui est vraie, il lui a dit, teshahad. Teshahad, ça veut dire fais le adhan. Fais le adhan. Ensuite, taqbil qibla. ensuite tu dis Allahu Akbar, tu lis comme le kitab, ensuite tu t'inclines et lui a fait comprendre comment on fait la prière. Al-Muhim, je voulais dire ici, dans une riwaya sahiha, il lui a dit fais le adhan, tashahad. C'est pour ça que il est de la sunna quand quelqu'un, par exemple, il arrive à la mosquée, soit ils ont fait la prière. La vraie sunna, c'est quoi? C'est d'aller faire ma prière à la maison, c'est pas à la mosquée. Sauf si, de la mosquée, je vais aller ailleurs, au travail ou là, bon, je la fais à la mosquée et je pars. Sinon, je vais à la maison faire la prière, c'est mieux, si la maison n'est pas loin. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé une fois. Il voulait aller à la mosquée. Il est arrivé devant la mosquée, il a trouvé les gens qui étaient en train de sortir. Ils ont déjà fait la prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné, il est allé à la maison, il a fait la prière. Ce hadith, il est hasan, bien sahih. Vous le trouvez dans Akhta al-Musallin de Sulaiman Mashhur. L'Albani aussi a dit hasan, mais il a dit sahih. Donc, quand je rentre à la mosquée, je trouve les gens qui ont déjà fait la prière. Si je vais la faire à la mosquée parce que je dois aller au travail ou là, qu'est-ce que je fais? Je commence par le adhan. Je commence pas par la prière, je commence par le adhan. Mais je le fais en moi-même. C'est-à-dire, je n'appelle pas les gens tout seul. Je dis comme ça, tout seul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shaydun Jaïl Allah, Shaydun Akbar, comme ça. C'est comme si je faisais l'Iqama. Ensuite, je fais le doigt, dans Marbadi Dawat Tamasal. Ensuite, que je fais Allahu Akbar, Allahu Akbar, yani l'Iqama. Donc, en ce sens, peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait à la maison seul, lui aussi, il faisait le adhan. Quand il le faisait seul. Mais le faire comme ça devant les gens, je n'ai jamais entendu un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le adhan devant les gens. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Là, j'ai dit une chose. J'ai dit quand tu fais le adhan dans la mosquée tout seul, j'ai dit tu fais tout seul, tu n'appelles pas les gens. Et quand j'ai terminé, j'ai dit ensuite tu fais le doigt. Je répète, tu ne dis pas le doigt. Parce que Cheikh Al-Albani a dit quand quelqu'un fait le adhan, il ne fait pas le doigt. Ce sont les gens qui l'entendent qui font le doigt. Donc je me corrige bien, Allah subhanahu wa ta'ala. Fadal, inshallah, prochain sourate. Il ne sert pas de sourate. La femme qui ne fait pas l'adhan aura-t-elle des péchés? Non, elle n'aura pas. La femme qui ne fait pas l'adhan n'aura pas des péchés. Il y a même certains ulama, comme Cheikh Ben Bazar, dit qu'elle ne fait pas l'adhan. Non, dit qu'elle fait. Il y a même qui disent qu'elle ne fait même pas l'iqama. Il y a même qui disent qu'elle ne fait même pas l'iqama. Mais le plus juste, c'est que l'Iqama l'a fait, c'est mieux. Et l'Adhan, des fois elle le fait, des fois elle ne le fait pas. L'Adhan, elle est libre, elle veut le faire, elle le fait. Inch'Allah, elle a un ajr. Elle ne veut pas le faire, elle ne le fait pas, Inch'Allah ta'ala. Je profite de l'occasion pour dire à mes frères et mes sœurs que n'oubliez pas, Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui peuvent, de faire le jeûne le vendredi. Le vendredi, c'est à Arafat, vous savez que ça annule 2 années, ça annule 2 années de péché. Celui qui peut le faire, Inch'Allah Ta'ala, qui ne laisse pas et qui ne rate pas cette occasion. Et il est mieux pour celui qui peut faire le jeudi et vendredi. Celui qui peut jeûner demain et ajouter le vendredi, c'est mieux. Car il y a un hadith qui est dit, on ne doit pas jeûner le vendredi seul. Mais même si on le fait seul, ça ne fait rien. Parce que notre but n'est pas de jeûner le vendredi, mais notre but c'est Arafat. Et Arafat, il est tombé le jeudi, il est tombé le vendredi, ce n'est pas de ma faute. Donc moi, si je fais le jeûne seulement le vendredi, je veux par là Arafat, je veux pas le vendredi. Naam. C'est comme ça qu'a dit Ibn Uthaymin Rahmou. Mais si quelqu'un peut faire le jeudi et le vendredi, c'est mieux. Pourquoi? Comme ça, il sort des divergences et il a un autre ajr, celui d'avoir fait le jeudi, car le jeudi et le lundi, ce sont des jours bien où il faut faire le... Quand on fait le jeûne, ce sont des jours, mashallah. Ensuite, autre chose, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Naam, n'oubliez pas, barakallahu fikum, que très bientôt, c'est le jour de l'an. Ce qu'ils appellent le jour de l'an. Naam, n'oubliez pas que, barakallahu, surtout vous qui vivez en Europe, n'oubliez pas qu'il est interdit de souhaiter à quelqu'un une bonne année. Il est interdit en islam de dire à quelqu'un je te souhaite bonne année, et si quelqu'un il te dit bonne année, il est interdit aussi que tu lui dises. Il faut bien y faire attention parce que ce n'est pas une chose facile. Là, ce n'est pas pour certains qui disent c'est rien. Yani, mon intention était bien ou l'a été bonne, ou l'intention ne rend pas le haram, elle ne rend pas halal. Ta bonne intention ne rend pas quelque chose qui est haram, à cause de ton intention qui est bonne, elle va devenir halal. J'ai une bonne intention, je vais boire le vin et je vais inchallah avec une bonne intention pour ne pas me saouler. Ou là je vais mettre dans mon intention que c'est du jus de citron, c'est du jus d'ananas, ce n'est pas du vin. J'ai une bonne intention. Tout ça, ça n'est pas accepté. Donc quand tu dis à quelqu'un une bonne année, ça veut dire que tu as reconnu sa fête religieuse. C'est très grave. C'est une fête religieuse pour eux. C'est quelque chose qui rentre dans leur din. C'est chaque année, l'année de Jésus, Isa alayhi salam, la nouvelle année, etc. Tout ça, il faut, inchallah ta'ala, d'éviter au maximum. Comme il faut éviter aussi toutes les choses qui ont rapport avec Noël. Toutes les choses qui ont rapport avec Noël, il faut les éviter. Quelqu'un te donne une chose à manger qu'il a acheté, à cause de ce Noël, tu la manges pas. Non, tu manges pas la bûche. La bûche qui a été construite à cause de Noël, tu la manges pas. Quand je veux manger la bûche, je la mange au mois de juin ou le juillet. Là, je la mange au mois d'avril. Quand je passe devant un magasin, j'achète la bûche. Elle me plaît, elle est bonne, elle est savoureuse. Mais je l'achète pas à cause de la Noël. Il faut pas l'acheter à cause de, elle a été construite à cause d'une fête religieuse. Donc c'est pas manger la bûche qui est interdit, mais c'est la manger à cause de, elle a été faite pour une fête religieuse. Elle a été construite pour une fête religieuse. C'est pour ça que faudrait, surtout vous qui vivez là-bas, c'est un peu difficile, mais faudrait trouver des solutions et essayer de, au maximum, yani, de ne pas faire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. On reste dans le sujet, inshallah. Est-ce que c'est terminé les questions, inshallah, ou est-ce qu'il y a des questions hors sujet? Est-ce que c'est une sunna de se lever lorsque l'imam dit qatqam salat? Cheikh Al-Albani a dit c'est possible, mais à condition que l'imam soit, on l'a déjà vu, hein, on l'a déjà vu. Car la sunna c'est quoi? La sunna c'est que celui qui dit, qui fait l'iqama, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, shahadun la ilaha illallah, ne commence pas l'iqama jusqu'à ce qu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on ne fait pas l'iqama alors que l'imam n'est pas, on sait même pas qui va faire la prière. On commence à faire l'iqama, ensuite on cherche l'imam. Quand je vois l'imam rentrer, je commence à faire l'iqama. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas l'iqama jusqu'à ce que vous me voyez. Mais si tu restes assis jusqu'à ce qu'ils disent qatqam salat, Anas, le compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, faisait cela. Cheikh Al-Albani a dit c'est possible que tu restes jusqu'à ce qu'ils disent qatqam salat et tu te lèves. Qu'on faisait Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu. Si tu te lèves avant, c'est permis aussi. Si tu te lèves avant, c'est permis, car les autres sahaba ne faisaient pas cela. Beaucoup de sahaba se levaient à n'importe quel moment. Donc inshallah ta'ala, tu es libre bi'idnillah, celui qui veut il attend, celui qui veut il se lève avant. Fadal inshallah. S'abstenir de manger le jour de sacrifice, je suis revenu de la prière et manger ensuite de la bête sacrifiée. Abu Bouraïda rapporte qu'au jour de la rupture du jeûne, le messager ne sortait pas sans avoir mangé. Au jour de sacrifice, il mangeait pas jusqu'à avoir sa sacrifice. Comment comprendre ce hadith? Naam, ce hadith il est sahih. On le comprend comme il est. Qu'est-ce qu'il a dit le hadith? Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas le jour de l'Aïd, yani, c'était pas sans avoir mangé. Yani le petit Aïd, on appelle le petit et on appelle le grand. Le petit Aïd où il n'y a pas le mouton, celui du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait et sortait. Et l'aïd du sacrifice, il ne mangeait pas jusqu'à ce qu'il revenait, et il mangeait de la bête. C'est comme idée, il n'y a rien de difficile. Naam. Il n'y a rien de difficile. Quand on termine le Ramadan, demain c'est l'aïd. Naam. Je mange quelque chose le matin avant de sortir, pour prouver que pour prouver que c'est l'Aïd. Et quand c'est le sacrifice, qu'est-ce que je fais? Je laisse pour que ça soit la première chose que je mange, c'est la chose que j'ai sacrifiée, la chose que j'ai égorgée. Mais c'est seulement une sunna. Ce n'est pas obligé. C'est seulement une sunna, ce n'est pas obligé. Des fois, avant de partir pour la prière de l'Aïd, des fois tu te lèves le matin, tu trouves que tu as faim. Tu trouves que tu as faim, t'as pas de problème. Tu bois ton café au dé, tu manges des makhrout, tu manges des tchareks, tu manges khalbellouz, tu manges baklawa et tu vas faire la prière et tu reviens. Donc ce n'est pas interdit, c'est seulement une sunna. Il faut bien faire la différence entre ce qui est seulement sunna et ce qui est obligatoire, yani qu'il faut le faire. Naam. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل إن شاء الله prochaine question. خلاص ولا question؟ Y a plus de questions. Mon mari est parti en Algérie depuis une semaine pour le sacrifice là-bas, mais son père lui a dit qu'il ne pourra pas le faire parce que c'est un moussaf, un voyageur, et qu'il a à sa charge. Donc ce père, son père le fera à sa place. Est-ce là vrai ou faux? Sachant que le voyageur qui réside dans un pays plus de 30 jours est un mouhrim. En ce qui concerne celui qui réside dans un pays plus de 4 jours est un mouhrim, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Car, comme j'ai dit une fois, Anas ibn Malik a fait la prière, combien? 2 années prière du voyageur. Et Abdullah ibn Misruq aussi a fait 2 années la prière du voyageur. Abdurrahman ibn Samoura a fait 2 mois de prière, 2 années prière du voyageur, c'est-à-dire raccourci. Naam, quand je suis dans un autre pays, tant que j'ai l'intention de revenir dans mon pays, je suis seulement dans ce pays, seulement pour des études, ou là seulement pour vendre, ou là seulement pour un commerce, ou là, je fais raccourci jusqu'à ce que je revienne chez moi. Ça n'a rien à voir le 4e jour, là le 5e, là le 6e. Donc ici, ce qu'a dit le grand-père lorsqu'il a dit à son fils tu peux pas égorger, ce n'est pas vrai. S'il l'avait égorgé, c'est mieux. Et puisque maintenant c'est son père qui va égorger à sa place, ça suffit. Un seul mouton suffit pour la famille. Quand on est une famille, on est 8 ou 10 dans la même famille, un seul mouton nous suffit. C'est pas la peine, même si on est 2 ou 3 qui travaillons. Et si on pose l'argent tous, par exemple, chez notre père, seul notre père achète un seul mouton, par exemple, pour toutes les 3 familles, c'est possible. Mais si la famille vit seule, dans un appartement seul, chaque famille avec son mouton, pour ceux qui ont de l'argent, bien sûr. Celui qui n'a pas, ma mère est veuve, est-ce qu'il est obligatoire pour elle d'égorger un mouton, elle vit seule, a les moyens de couper un mouton, Est-ce que pour elle dégorger un mouton, elle vit seule, elle a les moyens de couper un mouton? Je ne crois pas que elle a les moyens de couper un mouton. Ah, je comprends que ça veut dire couper. Ça, je croyais qu'il voulait dire égorger. Non, ça veut dire que elle peut le couper. Quand elle égorge, elle peut le couper. Je ne sais pas si c'est obligatoire pour elle. Je ne sais pas, Allah. Franchement, je ne sais pas si c'est obligatoire pour elle. Non, je ne sais pas. Il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, que je cherche. Non. Fadal, Inch'Allah, prochain souhait. Salam alaikum. Le roi d'Arabie Saoudite serre la main aux femmes, nous l'avons vu à la télé. Est-ce que halal? Y a-t-il un hadith qui dit que les jours du Eid al-Adha, toutes les eaux de la terre deviennent un zin? Barakallahu fiqh. Chiron vous aime. Jazakallahu khayran. Barakallahu fiqh. Ahabbak alladhi ahbabtani fiqh. Abu Bilal Salafi, il faut que tu saches, Inch'Allah, comment choisir les questions. Le roi d'Arabie Saoudite, moi je parle pas du roi d'Arabie Saoudite, je parle de toute personne qui fait des choses ou la serre la main aux femmes ou la boit de l'alcool ou là, ceci ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça se fait ou là ça se fait pas dans le dîn. Dans le dîn, ça se fait pas. Dans le dîn, il est interdit à un homme de serrer la main de la femme. comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si on te choisissait entre te frapper avec l'aiguille, la grande aiguille à la tête, jusqu'à te couler du sang, ou bien serrer la main à une femme, il faut choisir l'aiguille, ne pas serrer la main à une femme. Donc le roi d'Arabie Saoudite n'a rien à voir dans notre question ici. Autre chose, le mazumzum, le jour de l'Aïd, Adha, toutes les eaux de la terre deviennent mazumzum. Cela n'est pas vrai, comme vous pouvez le remarquer vous-même. Vous pouvez vous-même boire de l'eau et vous remarquez qu'elle ne devient pas de mazumzum. Elle reste normale. Naam. Donc ça, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas vrai. Fadal, Inch'Allah, prochaine question. Sinon, je suis obligé de répondre à ceux qui m'ont envoyé le courrier, tellement il y en a de questions. En faisant les deux rakats, en rentrant à la mosquée, avant de terminer, l'imam commence la prière. Doit-on terminer notre prière surrogatoire ou s'arrêter sur place et faire la prière avec l'imam? Donc, si on n'a pas fini les surrogatoires et l'imam commence la prière, que doit-on faire? Naam. Quand on fait des prières surrogatoires, nafila, et la iqama a commencé, Allahu Akbar, Allahu Akbar, shahadu la ilaha illallah, il va faire l'iqama, je regarde où suis-je. Si je sais que je peux terminer de façon à ce que quand l'imam va dire Allahu Akbar, je vais rentrer avec lui, donc je termine ma prière assez vite pour rentrer avec l'imam quand il dit Allahu Akbar. Mais si je sais que je vais pas terminer ma prière, c'est-à-dire que si je vais la terminer, l'imam va dire Allahu Akbar, il va commencer à lire. Dans ce cas, je suis obligé de quitter et de sortir et d'aller faire la prière avec l'imam. Il a oqimat salat, fala salat illa al-maktouba, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit si oui, il y a l'iqama de la salat, il n'y a plus de salat, il y a seulement celle qu'on fait avec l'imam. Donc ça dépend de qui? Ça dépend de celui qui fait la salat. Est-ce qu'il est assez rapide? Et ça dépend de l'imam. Est-ce que l'imam est le genre, par exemple, qui attend un peu? C'est le genre qui dit, par exemple, istawo. Est-ce qu'il prend un peu de temps avant de dire Allahu Akbar? Tu connais l'imam, tu sais que c'est le genre qui attend un peu et que tu peux vite terminer et yani, rentrer avec lui dans Allahu Akbar. Tu termines. Comme ça, on dit les ulama, et comme ça, Inch'Allah ta'ala, vous le verrez dans le prochain dars. Mais, si l'imam, c'est le genre qui va vite ou là, et toi qui te reste beaucoup de la salat, il vaut mieux la couper en plein moitié et rentrer avec l'imam. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Fadal, Inch'Allah, prochaine question. Pour la question de la sœur, pour le mouton. Est-ce que ça va compter pour moi? Sa femme et sa fille s'il n'y a pas l'intention. Même la femme et la fille, Inch'Allah ta'ala, elles sont pas, Allah ta'ala ne leur a pas demandé d'égorger un mouton. Il a demandé d'égorger à celui qui est le responsable, celui qui est responsable de la famille. Donc si lui, Inch'Allah ta'ala, il égorge, c'est yani, pour toute la famille, Inch'Allah ta'ala, vous rentrez avec lui. Et s'il n'égorge pas, et que il avait l'intention d'égorger, mais il s'est passé quelque chose, Inch'Allah ta'ala, vous aurez aussi, yani le hajr. Vous aurez aussi le hajr. Naam. L'essentiel, c'est d'avoir yani, l'intention dans le cœur. Lui, il voulait peut-être égorger, et à cause de son père, yani, il a dit, puisque mon père va égorger, là, c'est la même chose. Mais en principe, puisqu'il habite seul, il devait égorger. Il n'habite pas avec son père, c'est une famille mustaqilla. Il vit seul, il a une paye seule, et sa paye n'est pas mélangée avec la paye de son père. Il devait, bi'idhni ta'ala, égorger. Mais Inch'Allah ta'ala, innama al-a'mal bin-niyyat. Inch'Allah. Fadal, Inch'Allah, prochaine question. Que conseillez-vous par rapport au film sur l'islam tel Risala? Est-il wajib pour une femme de faire le adhan avant la salat? Pour la femme, il n'est pas wajib de faire la salat, pardon, de faire le adhan. Il n'est pas wajib pour une femme de faire le adhan avant la salat. Pour l'homme, c'est plus ou moins wajib. Pour l'homme, il faut qu'il fasse le adhan avant de faire la prière. Inch'Allah. Pour la femme, non. Je l'ai dit plusieurs fois. Que conseillez-vous par rapport aux films sur l'islam tels que Risala, etc. Bien sûr, Risala, etc. Des films pareils, vous savez que, yani, ils sont, Inch'Allah, ils sont en erreur. Ah, ils ont montré les Sahaba, ils ont montré dans la Risala, ils ont montré Hamza, radiallahu ta'ala, ils ont montré Bilal, ils ont montré tout ça, bien sûr, ce n'est pas vrai. Et je pense qu'ils auront des ismes. Je pense qu'ils auront des ismes. Parce que, en principe, déjà, le fait de, ça s'appelle Temtil, comment ça s'appelle Temtil? Déjà, Temtil en lui-même, en islam, il n'est pas légiféré. Et Temtil, maintenant, il mettent le Sahaba. Maintenant, ils mettent le Sahaba. Ensuite, ils mettent des kuffars dans le rôle des Sahaba. Comme par exemple, si vous avez remarqué dans la Risala, par exemple, Hind, c'est la femme de Abu Sufyan. Hind, c'est une musulmane. Ah, une musulmane. C'est la mère de Muawiya, radiallahu ta'ala, la mère de Ramla, radiallahu ta'ala. Hind, c'est une chrétienne qu'on a mis à sa place. Celle qui a représenté Hind, c'est une chrétienne. La hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, la grande faute, où est-ce qu'elle est la grande faute? C'est que certains gens prennent l'islam du film. La femme, elle se dit, subhanallah, celle-là, elle s'épile les soucis ou là au moment où les cils. Oh, mashallah, donc il est permis en islam. Oh, regarde celle-là, comment elle a mis son khémar sur sa tête. Elle laisse ses sourcils. Ça. Regarde cette femme, elle a laissé le début de ses cheveux, on les voit. Donc il est permis. Oh, regarde cette femme, par exemple, elle met une jupe à la place du djilbab. Donc c'est permis de mettre une jupe. Oh, regarde celle-là, la hawla wa la quwwata illa billah. Khalas, ils ont oublié le Coran et la Sunna. Maintenant, c'est le film qui va leur montrer l'islam. Non, c'est le film qui va leur montrer l'islam. Ils vont prendre l'islam du film. Ils ont oublié qu'ils ont un Coran et qu'ils ont une Sunna qu'ils doivent suivre et non pas le film. La plupart, peut-être, astaghfirullah, peut-être la plupart des actrices ne font pas la prière que tu vois dans le film. Astaghfirullah. Peut-être la plupart qui ont des acteurs aussi, peut-être qu'ils ne font pas. Il y avait même des chrétiens et des chrétiennes à l'intérieur du film. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Fadda, inshallah, prochain sourate. C'est pour ça que vous remarquez que. C'est pour ça. Il n'y a pas de son. C'est pour ça que vous remarquez que en islam, on se base pas sur les osmos, sur les sentiments. Naam. L'islam, c'est quoi? L'islam, c'est la aqida. La aqida et la science. Quand tu t'assois pour écouter les douros, et tu prends un cahier, et tu notes, et tu révises, et tu apprends, voilà l'islam, et voilà quelqu'un qui, inshallah ta'ala, va réussir. Ce n'est pas l'islam. Tu t'assois en face de la télévision, tu regardes la risala, tu vas pleurer, et le cœur est vide. Dans le cœur, il y a quoi? Il y a une toile d'araignée. Il n'y a ni aqida, ni minhaj. Ensuite, c'est vide. Ensuite, on va voir le film, risala, masha'Allah, on va pleurer. On va supporter Hamza quand il fait le duel. Je vais supporter Hamza, masha'Allah. Et ensuite, je pleure, masha'Allah. Ensuite, le film se termine. Un quart d'heure après, je ne sais pas quel film je vais voir. J'ai tout oublié ce que j'ai vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le cœur est vide. Je trouve la femme, elle voit la risala, elle pleure. Et le lendemain, elle va chez la sorcière pour amener un peu de sorcellerie pour faire à son mari. Qui peut, je ne sais pas ce qu'il a, il veut se remarier. Et pourtant, hier, elle avait vu la risala et elle a pleuré. Mais pourquoi? Il n'y a pas d'ilm, il n'y a pas d'aqida, il n'y a pas de minage, il n'y a rien. Mais l'islam, c'est pas des sentiments. On gonfle quelqu'un. Comme on gonfle un ballon, ensuite, avec une petite épine, il éclate. Pourquoi? C'est vide. Et l'islam, c'est tu apprends le dîme. tu apprends, tu restes des années à apprendre, tu endures, tu n'es pas, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah, inna ghaliya. Il a dit, la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est chère. Sa marchandise, c'est le paradis. Le paradis, si tu crois que tu vas l'avoir en dormant ou seulement en regardant un film, en pleurant 5 minutes, tu te trompes beaucoup. Le paradis, pour le rentrer, il faut que tu souffres. Il faut que tu aies des maux de tête en demandant le haine. Il faut que, yani, tu trouves que tu as maigri. Tu dis, j'ai maigri à force de lire des livres, à force d'assister aux doros. J'ai maigri, Wallah. Naam, voilà, maintenant tu es dans le vrai chemin. Si tu crois que ça va venir comme ça, en passant la journée, je ne sais pas où, ensuite les 5 dernières minutes, l'insane, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir un film ou écouter une cassette et dormir. Il dit, khlas, alhamdoulilah, je suis, masha'Allah. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Tfaddal, inshallah, prochain sourate, tfaddal. Que doit-on faire lorsque les parents nous forcent à aller à l'école ou on est contraint d'enlever le hijab? Que doit-on faire lorsque les parents nous forcent à aller à l'école ou on est contraint d'enlever le hijab? Naam, premièrement. Bon, est-ce qu'il y a le son, Abou Abdelaziz? Est-ce qu'il y a le son? Naam, premièrement, ces parents qui poussent leurs enfants à aller à un endroit où on va enlever le hijab aux filles, ce seront les gens qui auront le plus grand supplice le jour du jugement dernier. Naam, ce seront les gens qui vont avoir le plus grand supplice le jour du jugement dernier. Ça veut dire que il pousse sa fille à ce qu'elle désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est qu'elle parte à l'école et qu'elle ait le diplôme. L'essentiel, c'est qu'elle soit, masha'Allah, médecin ou l'avocate ou la je ne sais pas quoi. Mais obéir à Allah ou la désobéir, ils sont pour éperdument. Même quitte à désobéir, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, c'est le diplôme. La hawla ou la quwwata illa billah. Ce sont ceux qui, yani, vivent pour cette vie, ne vivent pas pour l'au-delà. Ça ne leur dit rien, ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'essentiel, c'est d'avoir le maximum de bien dans cette vie. L'essentiel, c'est de la hawla ou la quwwata illa billah. Quand je lis des choses comme ça, je sens quelque chose dans mon cœur qui me fait mal. Je dis, il y a des gens qui sont comme ça, naam, et il y a des enfants ou là, des filles ou là qui vraiment sont en train de souffrir, qui vraiment sont en train de souffrir. De toute façon, chaque fille ou là, chaque enfant ou là qui peut ne pas obéir, n'obéit pas. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ata li makhluq fi ma'siyat al-khalaq. Qui peut obéir, il dit, moi j'enlève pas le hijab, quitte à, je ne vais pas à l'école. Mais si quelqu'un va à l'école, ensuite il va enlever son hijab, il va montrer ses cheveux, plutôt c'est une femme, elle va montrer ses cheveux, celle-là, bien sûr, la responsabilité devient premièrement aux parents, et aussi à la personne qui a accepté d'aller. Je demande aux parents, yani, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Si il n'y a pas de solution, tu prends ta famille et tu vas dans un pays où on n'enlève pas le djilbab à la femme. On ne lui enlève pas le voile. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas dit que tu es obligé de vivre dans ce pays. Quand tu vis dans un pays de kafir, de kuffar, le kafir, il est libre. Le kafir, il est libre. Naaman, Abu Abdel Boubila, je t'avais dit qu'il fallait prendre précaution dans des questions. Tu l'as fait, toi, tu l'as pas fait exprès. Toi, tu l'as pas fait exprès, tu as fait passer cette question. Mais je t'ai dit qu'il faut bien trier les questions avant de me les donner. Les questions, avant que vous me les posiez ici, pour qu'elle soit bien triée. Naam, je sais que tu n'es ni takfiré ni rien, tu t'es trompé, tu l'as fait vite, Yani tu n'as même pas remarqué, peut-être tu n'as même pas lu le sual. Mais avant de me poser des questions, il faut bien voir, voir ce que les gens ont écrit. Et toutes les questions qui sont louches ou là, tu les mets de côté. Toutes les questions qui sont louches ou là, tu les mets de côté. Je disais que, naam, tu veux que ta fille aille à l'école, ou là, au lycée, ou là, je ne sais pas où, prends-la dans un pays où elle peut le faire sans désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Prends-la dans un pays où elle peut le faire sans désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, car le kafir, c'est son pays. Le kafir, il te dit, toi, qui t'a dit de rester ici? Je suis dans mon pays, je fais ce que je veux. Il n'y a pas d'Adam, il n'y a pas de hijab, il n'y a pas de jilbab, et bientôt, peut-être il n'y a pas de salat. Bientôt, c'est interdit la salat. Je suis dans mon pays, je fais ce que je veux. Naam. C'est pas de sa faute, c'est de notre faute à nous. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Tfadla, inshallah, prochaine soirée. Est-ce qu'on peut mettre deux intentions lorsqu'on égorge? Par exemple, une intention pour l'aïd et une intention pour l'aqira. On ne peut pas. On ne peut pas. L'aqira, il faut un mouton spécialement pour cette personne. Et pour l'aïd, c'est autre chose. C'est à cause de l'aïd. On ne peut pas joindre deux moutons pour ces deux intentions. Il y a des choses qui se groupent, il y a des choses qui ne se groupent pas. Ces deux intentions ici ne se groupent pas dans un même mouton. Ne se groupent pas dans un même mouton. Naam. J'ai pensé à autre chose. J'ai pensé aussi à autre chose. Il y a des sœurs, même il y a des frères qui m'écrivent. Ils me disent que yani, ils veulent aussi participer avec nous dans la salle. Moi j'ai pensé, je me suis dit, pour faire participer le maximum, je me suis dit, chaque dars, j'enlève les points rouges aux deux premiers qui sont sur la liste en haut, les deux premières femmes, de premières sœurs, je leur enlève les points rouges. Ensuite, si l'une des deux, par exemple, les deux ou là, ne veulent pas participer, ou là ne peuvent pas, ou là sont occupées, ou là ont des invités, ou je ne sais pas quoi, elles écrivent seulement sur la fiche, je m'excuse. Je m'excuse, ça veut dire je ne peux pas. Je ne peux pas pour que je descende vers la troisième, là qui est en bas. Comme ça, je pourrai, Inch'Allah Ta'ala, participer au maximum, yani, ceux et celles qui veulent participer. La même chose, Inch'Allah Ta'ala, pour les hommes. Pour les hommes, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, à chaque fois, on fait changer. On fait changer pour que vous disiez pas, yani, il a choisi seulement certains, il leur donne, et nous, il ne nous laisse pas participer. Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, on me l'a dit. Déjà, on m'a dit que choisit seulement certains. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce qu'il y a une question, Inch'Allah? Abdullah ibn Omar a dit, au temps de l'envoyé de Dieu, les hommes et les femmes faisaient leurs ablutions ensemble, apportées par le Bukhari. Est-ce que c'était avant ou après le port du voile? Cela doit y avoir une explication. Naam, les ulama ont dit, quand ils faisaient ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous du même côté et ils voyaient. Car une femme, quand elle fait le wudu, elle est obligée de monter, de faire monter par exemple ses habits pour qu'elle fasse le bras jusqu'au coude. Elle est obligée, elle est ensuite obligée de mettre l'eau sur ses cheveux, donc elle est obligée d'enlever le khimar qu'elle a sur la tête. Donc tout cela, ça ne marche pas, à moins que de dire que c'était avant le voile. Mais je n'ai pas lu que c'était avant le voile, mais par contre on peut faire ensemble sans qu'on soit yani, qu'on soit en face. Je peux moi être de ce côté et elle est de ce côté et elle fait son wudu. On peut être même dans une chambre où moi je regarde ce côté, la femme regarde de ce côté, on se voit pas. Naam. Mais c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je me rappelle avoir vu. Mais le hadith, comme tu as dit, il est dans le Sahih al-Bukhari. Et peut-être certains ont dit avant le voile, je me rappelle pas très bien. Si certains ont dit que c'était avant le voile, je me rappelle pas très bien. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Autre question, Inch'Allah? Naam, nous sommes dans les 10 dernières minutes, Inch'Allah. 10 dernières minutes. Très bien. Donc, puisqu'il n'y a pas de question, je profite d'une chose. Bon, est-ce que le henné qui est sur le cheveu annule le siyam, empêche le wudu? Le henné n'annule pas le siyam et n'empêche pas le wudu. Je parle du henné après l'avoir lavé, bien sûr. Après l'avoir lavé, il donne une couleur rouge aux cheveux, c'est tout. Mais le henné, quand il est sur la tête, on ne peut pas faire le wudu sur la tête jusqu'à ce qu'on l'enlève. Maintenant, si ikhlas, on l'a fait, c'est lors de la prière, il y a pas, je ne sais pas comment faire. Ça, je peux par exemple essuyer sur le foulard. Mais après, quand je lave le henné, mes cheveux deviennent par exemple rouges ou la noire ou là. Dans ce cas, je peux normalement faire le wudu parce que il ne gêne pas. C'est comme si j'avais peint mes cheveux. Quelqu'un qui peint ses cheveux, par exemple, blanc, ça n'empêche pas de faire le wudu. C'est la même chose. C'est la même chose pour le siyam. Il n'a rien à voir avec le siyam. Naam, Ilyas, écris-moi un s'il y a à la fin le son. Naam. Avant de répondre à la prochaine question qui vient, je voudrais faire une petite remarque. Je vous ai dit hier ou avant-hier, je vous avais dit que j'avais reçu une lettre ou quelque chose comme ça. Une lettre, naam, qui disait qu'une femme, la hawla wa la quwwata illa billah, yani l'homme lui demandait si yani elle l'aimait, est-ce qu'elle pouvait lui dire si elle l'aimait ou pas. Vous avez remarqué que j'ai pas voulu cela, que je me suis vraiment yani énervé, je me suis dit que la hawla wa la quwwata illa billah. Mais cela, bien sûr, ils sont pas mariés. Ceux-là, ils ne sont pas mariés, ce sont sûrement, ils se connaissent comme ça à l'internet et ils passent leur temps à parler des choses pareilles que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Mais aujourd'hui, j'ai été vraiment étonné. Aujourd'hui, j'ai vraiment été étonné. Ça, je n'en reviens plus. Yani, quand quelqu'un m'a passé une question d'une sœur, lui, il dit une sœur. Pour moi, ce n'est pas une sœur. Qui dit que celle-là, elle est mariée. Et dit, mon mari n'est pas bien sûr, je veux divorcer, car j'aime un autre. La hawla wa la quwwata illa billah. Je suis amoureuse d'un autre. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Allahumma kfina sharra fitan ya rabbi ma dhahara minhu wa batin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah al-musta'an, Allah al-musta'an. Naam. Alors, celle-là, elle est sous le coup de quelqu'un, yani, elle est mariée et vous connaissez tous le hadith qui dit que chaque femme, quand une femme demande le divorce sans raison, celle-là, le prophète Aïssoussam a dit, elle ne sentira pas l'odeur du paradis. C'est pas elle n'ira pas, non, elle ne sent pas l'odeur. Yani, le paradis est à, par exemple, à je ne sais pas combien de kilomètres, on l'éloigne, elle ne peut même pas sentir son odeur. C'est pas loin. Alors imaginez maintenant, une femme va divorcer alors qu'elle est mariée pour se marier avec un autre. La hawla wa la quwwata illa billah. Déjà moi je pense que si une femme déjà mariée aime un autre, c'est qu'ils ont des relations. Ils doivent s'écrire, ils doivent se voir à l'internet, ils doivent se voir avec la caméra, ils doivent se téléphoner, c'est impossible. Naam, celle-là va me dire, mon mari n'est pas bien, comme elle l'a dit. Mon mari n'est pas bien, mon mari est méchant. Naam, tout ce que tu dis est vrai. Tu peux demander, une femme peut demander le divorce à cause de mon mari n'est pas bien, à cause de mon mari me frappe, à cause de mon mari est méchant. Ça, c'est une excuse. Mais, si vraiment, je dis à cette femme, je dis pas, c'est pas une sœur, cette femme, je dis à cette femme, si tu m'entends, si vraiment tu es sincère, demande le divorce et ne te marie pas avec celui-là, ne te marie pas avec celui dont tu dis j'aime. Si vraiment c'est à cause de ton mari qui n'est pas bien, demande la séparation, mais ne te marie pas avec cette personne qui, bien sûr, maintenant c'est le shaitan qui te montre que ton mari n'est pas bien. Soit ton mari maintenant il n'est pas bien, il est méchant, c'est un idiot, c'est tout. Non, c'est le contraire est aussi valable. Quand quelqu'un veut se marier la deuxième femme, et voilà que tout d'un coup sa femme n'est pas bien. Elle n'est plus la plus belle, elle n'est plus la plus intelligente, elle place tous les défauts, il lui les colle. Elle est feignante, elle ne se lève pas le matin, elle n'est pas belle, elle ne s'appuie pas bien, elle ne sait pas parler, elle ne sait pas lire, elle sait pas classe. Elle qui était, mashallah, tout a changé. Pourquoi? Parce qu'il veut se marier avec une deuxième. Naam, la même chose aussi. Celle-là, elle a cette personne dans sa tête. Maintenant, le shaitan va lui faire voir que son mari, c'est khlas. Il n'a aucune qualité, miskin. C'est le plus méchant. C'est le plus, il est affreux. On ne peut même pas le voir. Oh, quand il parle, tu ne peux même pas l'entendre. Quand il marche, oh, la tête. Quand il écrit, tout ce qu'il fait, il n'est pas bien. Pourquoi? Parce que, a'oudou billah, elle a dans sa tête une autre personne. La hawla wa la quwwata illa billah. Je demande à cette femme de craindre Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il lui arrive quelque chose qui va la laisser perplexe toute sa vie. Ou là qu'il lui arrive une maladie dont les plus grands professeurs resteront perplexes. Les grands professeurs viendront voir cette maladie pour dire on n'a jamais vu cette maladie. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Fadlan inshallah, prochain sourat. Et d'abord, je voudrais dire à mes frères et mes sœurs, barakallahu fikoum, ne m'envoyez pas de questions pareilles. Ne m'envoyez pas de questions où il y dit des choses pareilles. J'aime quelqu'un, il m'aime quelqu'un, a des choses pour une femme qui est mariée, que personne ne m'envoie quelque chose de pareil, barakallahu fikoum. Une personne a l'habitude de jeûner tous les lundis et jeudis. Cette personne est invitée pour un lundi ou jeudi, mais prévenue deux jours avant. Que doit-elle faire? Parce qu'elle doit jeûner jusqu'au déjeuner, puis manger. Est-ce qu'elle aura la réponse, la récompense du jour complet, ou elle mange chez elle avant d'aller chez la personne? De préférence, cette personne, de préférence, elle mange. Naam. Elle mange et yani, elle va chez la personne pour manger. Car la personne t'a invité spécialement pour te faire te préparer des choses, et toi tu vas yani, rester comme ça sans manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un qu'on a invité qu'il n'a pas voulu manger, il lui a dit kul laqad killafta akhak. Al-Albani rahimahu a cité dans le Silsila Sahiha, il a dit mange, pourquoi? Killafta akhak, ton frère tu l'as dérangé, il a posé, il a acheté, à la fin tu ne manges pas. Donc toi, de préférence que tu manges ce jour-là. Maintenant, si tu veux manger le soir, tu es libre. Tu peux leur dire, par exemple, est-ce que vous ne voyez pas d'inconvénient, par exemple, que je jeûne et on mange le soir. Là. Donc, toi, tu vois, yani, comment faire avec eux. Mais s'ils ont préparé des choses pour toi, tu manges et, Inch'Allah, ta'ala, tu as quoi? Tu as la récompense de ce jour. Tu as la récompense de ce jour, Inch'Allah, ta'ala. Pourquoi? Parce que tu as mangé, c'est pas parce que tu veux manger, mais tu as mangé à cause du hadith qui a dit mange et ne dérange pas ton frère. À peu près en ce sens. Non. Mais quand ils ont invité beaucoup de gens et tu peux ne pas manger, tu peux. Tu veux ne pas manger, tu peux. Tu leur fais des doigts, comme a dit le professeur Sam. Il a dit quand quelqu'un jeûne, si on l'invite, ou bien il mange ou bien il leur fait des doigts. Mais si spécialement on t'a invité toi, maintenant c'est toi qu'on a invité, tu vas pas aller laisser comme ça la table est vide et tu dis moi je mange pas. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Tfadla inshallah. Il reste deux questions. Tfadla. Je suis marié avec deux femmes. Alors si ma première femme a une machine à laver, avant que je me marie avec la deuxième et que je voulais acheter une pour la deuxième à 6000 dinars, est-ce que je dois donner 6000 dinars pour la première par exemple? C'est là où tu voulais. Regarde comment ça se passe, Akhi Karim. Quand tu achètes une machine à laver à la deuxième femme, la première, elle a une machine à laver, là. Maintenant, la première femme, tu lui achètes une chose dont elle a besoin aussi. Elle, là, elle a une machine à laver, mais peut-être elle a besoin d'une autre chose. Tu lui achètes l'autre chose dont elle a besoin. Et c'est pas obligé que ça soit à 6000 dinars. Il se peut que ça soit moins, il se peut que ça soit plus. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a deux enfants. Il doit être égal. Il a un enfant qui est grand, il va à la fac, il a un enfant qui a 10 ans. Il doit être égal. Comment, c'est quoi l'égalité? C'est que celui qui va à la fac, il lui donne l'argent pour acheter des livres, pour ceci, pour cela. Et le jeune, il lui donne, il lui achète des choses qui sont à son niveau. Peut-être qu'il lui achète des jouets, peut-être qu'il lui achète un vélo, peut-être. Comme ça, il a été égal. C'est pas qu'il doit donner la même chose qu'il donne à celui qui va à la fac. Ou là, il a une fille. Il a un garçon. Pour être égal au garçon, il lui achète un camis ou un pantalon ou là, il lui achète des choses dont il a besoin. Et à la fille, il lui achète, par exemple, les choses dont elle a besoin aussi. Les choses dont elle qui sont spécialement pour les filles. C'est ça l'égalité. L'égalité, c'est pas de donner la même somme d'argent. Car Allah Azzawajal a demandé, il a demandé l'adl, ta'dilo. Il n'a pas demandé teswiya, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahou. Il n'a pas demandé teswiya. Il faut, si tu donnes ici 10, tu donnes ici 10. Non. C'est d'après ce qu'a besoin cette personne et d'après ce qu'a besoin l'autre personne. Naam. Quand cette personne, par exemple, je vais la marier, je lui fais ce qu'elle veut. La deuxième personne, quand je la marie, je lui fais aussi la même chose. C'est la troisième. Mais si une personne ne va pas se marier, je ne vais pas lui faire cette chose. Je lui fais faire la chose dont, qui a rapport avec son projet. Cette personne ne va pas se marier, mais elle va faire un voyage. Je lui donne les choses qui ont un rapport avec le voyage. Et comme ça. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Il est 1h du matin ici. Je m'arrête, inshallah ta'ala. On se rencontre, inshallah ta'ala, samedi pour le cours de la Aqidah. Mais il est possible qu'on se rencontre, inshallah ta'ala, vendredi. Il est possible qu'on se rencontre vendredi la nuit. Il est possible, car j'ai des questions dans mon courrier auxquelles je répondrai comme ça dans la salle, inshallah ta'ala, si je peux, inshallah ta'ala, vendredi. Naam. Jazakumullah khairan. Naam. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est mercredi. Je ne sais pas si j'ai le DAS vendredi ou samedi. J'ai oublié. Est-ce que le DAS c'est vendredi ou la samedi? Qu'est-ce qui peut me rappeler? Samedi. Naam, samedi, inshallah. C'est pas vendredi. Naam. Jazakumullah khairan. Inshallah, ila zalikum l'hin. Stoudiakum Allah l'adhi la tadi'a wa da'i'u. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته